Vous êtes sur RTL.
Il est trop loin dans le déconfinement, c'est la question de cette matinale et nous aurons la réponse du directeur général de la santé, Jérôme Salomon, à 7h40. Il est l'invité de Benjamin Sportouche, l'occasion de faire le point aussi sur le port du masque, les rassemblements, bref, cette soudaine liberté qui rend heureux mais qui inquiète. Cette semaine est aussi marquée par l'arrivée du baccalauréat dès jeudi avec l'épreuve de philo avant le grand oral lundi prochain. Marie Guerrier, notre spécialiste éducation, fera un point très complet à 7h20. Autre événement que nous attendons tous, l'entrée de l'équipe de France dans l'Euro de football. Ce sera demain soir dès 21h face à l'Allemagne. RTL et M6 sont sur place et nous allons nous intéresser au cas Benzema, reportage de Raphaël Vantard, dès 7h15, là où il a grandi et a été formé à Bron, près de Lyon. Nous sommes le lundi 14 juin 2021. Vous écoutez RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Et cette question ce matin à la une, le couvre-feu peut-il encore durer 15 jours?
Les températures, le football et tout simplement l'envie de vivre, de se retrouver, poussent chaque soir des milliers de personnes à braver les consignes. Les autorités sont un peu dépassées, nous allons y revenir. La nappe d'hydrocarbures qui menace la Corse continue de dériver ce matin vers le sud de l'île. Plusieurs plages resteront fermées. Condamné à 30 ans de prison, il continue de clamer son innocence. Willy Bardon est jugé en appel pour le meurtre d'Élodie Kulik. Dans ce journal, nous irons faire un tour dans le Lot. Vieilles pierres et gastronomie font de ce département un coin très prisé des vacanciers. Et puis nous reviendrons sur la victoire de Novak Djokovic. Le Serbe remporte Roland-Garros après plus de 4 heures de match et une sacrée remontada.
La politique, Olivier Bost.
Et puisque ça craque de partout, à quand la fin du couvre-feu et des masques en extérieur?
On vous écoute dès la fin du journal.
RTL Matin.
Eh bien justement, la France est toujours sous couvre-feu et doit le rester normalement jusqu'au mercredi 30 juin. Sauf que la météo, particulièrement clémente, les matchs de foot en terrasse et l'envie après des mois de privation de retrouver ces instants de liberté incitent certaines personnes à se passer des règles. Ce week-end, dans plusieurs villes de France et notamment dans la capitale, des rassemblements se sont organisés spontanément, en dernière minute. Difficile de tout contenir, Valentin Boisset.
Oui, ce week-end, Paris était une fête et notamment aux Invalides. Alexandre y était avec un groupe de 20 personnes.
Dehors, il y a juste plein de monde. Sur les pelouses, il y a juste plein de monde. Donc le couvre-feu à 23h, ça sert à rien.
Je pense que ça sert à rien, moi. Quand il était à 18h, bah, personne sortait. Mais 23h, là, ça n'empêche pas de sortir, quoi.
La plage de Nice s'est elle aussi transformée en piste de danse. Des centaines de personnes sont à chaque fois présentes. Et ce sont souvent des jeunes qui se retrouvent avec de la musique. Pour ces étudiants, les partiels sont terminés. Après plus de 6 mois de couvre-feu, la lassitude a pris le dessus. Alors ce week-end, ils voulaient tout simplement en profiter.
Je suis rentrée plus tard que 23h. Les cours sont finis. On a passé une année qui était difficile, où on était enfermés. Et surtout quand on est étudiant.
Vu qu'on est bientôt à la fin du mois de juin et qu'après, je sais qu'en juillet, il n'y a plus de couvre-feu, ça sert un peu à rien en fait.
Bah, on a envie de profiter, on a envie de prendre l'air, on a envie de voir nos amis.
L'année dernière, j'ai pas pu fêter mon anniversaire cette année non plus. Après 21h, ça aurait été mieux de l'arrêter en fait.
Malgré tout, une date reste dans toutes les têtes, au moins pour le symbole, le 30 juin, avec la fin des ultimes restrictions.
Valentin Boisset, tenir jusqu'au 30 juin, le défi paraît compliqué pour les autorités. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a plaidé hier pour la fin du couvre-feu tout en demandant à la jeunesse de respecter encore davantage les gestes barrières. Cela paraît d'autant plus difficile de tenir parfois dans des appartements étouffants qu'il va faire chaud. Dans les jours qui viennent, très chaud, même Louis Baudin, début de semaine caniculaire.
Ah oui, caniculaire. C'est vrai que les températures jusqu'à mercredi vont grimper, que ce soit au nord ou encore au sud. Hein, on dépassera les 30 degrés. On frôlera probablement les 35 degrés dans le sud. Ça jusqu'à mercredi. Mais ça ne devrait pas aller plus loin, parce qu'à partir de jeudi, changement radical, retour des orages, de l'air plus frais et donc des températures plus respirables.
Merci Louis, on vous retrouve juste avant le journal de 7h30 pour des prévisions complètes sur ce début de semaine particulièrement chaud. Il est 7h03, plage fermée, pêche interdite, la Corse toujours menacée par une nappe d'hydrocarbures.
Même si les dernières prévisions se veulent rassurantes, des galettes ont été retrouvées sur les plages de Solenzara et sont en cours d'analyse. Les touristes qui viennent d'arriver sur l'île ne peuvent toujours pas mettre un pied dans l'eau. 40 km de côte ont été fermés, notamment des réserves naturelles à la biodiversité exceptionnelle. C'est le cas de la lagune d'Ourbine, refuge pour des centaines d'oiseaux migrateurs notamment. Vous vous y êtes rendu, Morad Jabari.
Oui, une lagune entre une mer cristalline et des montagnes au sommet encore enneigées, un refuge pour la faune et la flore avec des goélands et des sternes Pierre Garin.
Bien sûr qu'il y a des espèces protégées. Nous avons de la tortue d'Hermann, la tortue cistude d'Europe. Nous sommes sur la lagune d'Ourbine avec une ouverture bien entendu sur la mer.
Cyril est garde au conservatoire du littoral et à l'annonce de cette plaque brune d'hydrocarbures à 800 mètres de la lagune, il a tout de suite ensablé l'embouchure de l'étang.
Pour que justement cette nappe ne rentre pas dans la lagune. Pour le moment, la nappe d'hydrocarbures se retrouve plus au sud de l'étang. Notre équipe de garde a sillonné un peu tout le secteur pour regarder si tout se passait bien.
Mais François Tibéry, maire de Ventisiri, se méfie. Son village sur la lagune et ses plages ont déjà connu des épisodes de pollution dus à un dégazage.
À cause du fioul lourd qui descend et qui ensuite peut remonter avec l'eau qui se réchauffe. Donc peut-être que cet été, on aura, lorsqu'au mois d'août, septembre, on aura peut-être des remontées de gasoil à la surface et qui pourra venir sur les côtes.
Il a prévu d'installer en septembre au large de sa commune des barrages flottants, mais il sera peut-être trop tard. Hier soir, à quelques kilomètres de là, des petites galettes noires se sont échouées sur une plage.
Morad Djabari. Le Français Rémi Daillé, soupçonné d'être mêlé à l'enlèvement de la petite Mia, et sa famille, expulsée dimanche de Malaisie en direction de la France, n'ont toujours pas embarqué pour Paris. Ils sont actuellement en escale à Singapour. La compagne de Rémi Daillé, enceinte, a été hospitalisée. Willy Bardon de retour au tribunal, 18 mois après sa condamnation à 30 ans de prison pour l'enlèvement, le viol et le meurtre d'Élodie Kulik. Il avait tenté de se suicider à l'énoncé du verdict en ingurgitant un pesticide. Il est cette fois jugé en appel. Il continue de nier sa participation. Et Franck Hanson, il compte bien, une nouvelle fois, tenter de convaincre les jurés.
Oui, cette fois, il n'entend rien laisser passer et se battre. Willy Bardon a beau répéter que ce n'est pas sa voix derrière cet appel glaçant d'Élodie Kulik, que son comportement souvent lourd envers les femmes ne fait pas de lui un tueur. Cet ancien plombier et patron de café n'a pas vraiment convaincu jusqu'à présent. Avant qu'il ne retourne en prison pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire, il clamait toujours son innocence.
Ils ne prennent pas la bonne personne. Il y a beaucoup de gens qui ont dit énormément de bêtises. C'est faux. On m'accuse d'être quelqu'un de très malhonnête envers tout le monde. Aujourd'hui, je suis prêt à parler pour expliquer que c'est pas moi, tout simplement.
Ancien compagnon de virée de Grégory Viard, fondu par son ADN, mais décédé dans un accident. Bardon n'est pas là par hasard pour Jackie Kulik, le père de la jeune banquière assassinée.
J'ai aucun doute, moi. Quand on voit la noirceur de l'individu, ses avocats ont beau essayer de le faire passer pour quelqu'un de respectable, c'est pas du tout le cas. Hein. Bardon, c'est quelqu'un de méticuleux, hein, qui a été peut-être assez intelligent pour une fois, pour ne laisser aucune trace. Moi, je demande la perpétuité.
Willy Bardon voulait disparaître à l'énoncé du premier verdict, pas supportable pour lui, du pur chantage, dénonce le père de la victime.
Franck Hanson pour RTL.
On évoque les vacances dans un petit instant et on part faire un tour dans le Lot, ce sera bien agréable. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
Un peu plus de 2 millions de visiteurs chaque année, le Lot est un département qui séduit toujours autant les Français.
Suffisamment à l'écart de la foule pour ne pas se sentir étouffé, mais disposant de toutes les commodités touristiques. Il y fait souvent beau, on y mange toujours bien et les touristes ne s'y trompent pas. Le Lot fait partie des départements les plus souvent cités lorsqu'il s'agit de passer des vacances au vert. La récente tournée d'Emmanuel Macron a donné à ce territoire un coup de projecteur supplémentaire. Reportage de Patrick Hisson.
Nous voici sur le marché de Cahors avec ses producteurs locaux, dont Thierry et ses célèbres cabinets.
Petit fromage au lait cru de chèvre. Les gens aiment bien se retrouver dans la France, on va dire, un peu profonde, retrouver tout ça. Voilà, c'est une déconnexion totale.
Une déconnexion chargée de gastronomie, mais pas seulement pour cette Toulousaine.
Moi, c'est les pierres, le monument, l'histoire de la ville, voilà.
En remontant le Lot, en voiture ou en bateau, cette Charentaise a passé le week-end au camping de la plage au pied du célèbre village médiéval de Saint-Cyr-la-Popie.
Côté paix, côté nature. Ce matin, on a fait la petite balade sur le chemin de halage. Et en plus, on se baigne parce que l'eau est très bonne.
Et toutes ces douceurs annoncent une fréquentation exceptionnelle cet été. Ce sera le cas chez Valérie et Stéphane. Ils tiennent une maison d'hôte à Tour-de-Fort.
On est déjà bien complet et ce qui est étonnant cette année, c'est qu'on a beaucoup de longs séjours. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. On a même 12 jours, hein, certains. Enfin, c'est déjà bien plein.
Il s'agit de qui ?
C'est Spoutnik, notre coq.
Le bonheur est dans l'hôte, c'est comme le Gers finalement.
Absolument. Et avec Spoutnik et ses poules.
Coq Spoutnik, Patrick Hisson pour RTL. Les Français privilégient la France pour partir cet été, c'est ce qui ressort d'un sondage Opinionway. 76% annoncent vouloir passer un été bleu, blanc, rouge, selon l'expression du gouvernement. À l'étranger, une foule en liesse hier soir, place Rabin à Tel Aviv, pour célébrer le changement de gouvernement. Après 12 ans à la tête de l'État hébreu, Benjamin Netanyahou a été renversé par une large coalition qui va de la droite à la gauche, en passant par l'extrême droite et l'appui d'un parti arabe, le tout dirigé par le nouveau Premier ministre Naftali Bennett, issu lui d'un parti de la droite nationaliste. Une coalition totalement improbable qui n'a aucun point commun si ce n'est celui de vouloir tourner la page Netanyahou. Et puis le sommet de l'OTAN aujourd'hui à Bruxelles. Bruxelles. Le premier avec Joe Biden, les États-Unis de retour avec l'ambition d'apaiser les relations avec ses alliés occidentaux.
4 heures, 11 minutes de jeu et un 19e titre en Grand Chelem pour Novak Djokovic.
Le Serbe l'a emporté sur le grec Tsitsipas en 5-7 après avoir pourtant bien mal engagé son match, Isabelle Langer.
Impuissant, dépassé pendant les deux premiers sets, Djokovic a profité du changement de côté pour rentrer au vestiaire pendant quelques minutes, avant de revenir transformé sur le court, et pas seulement parce qu'il avait changé de chemisette. Intouchable ensuite. Mais qu'a-t-il fait exactement ?
Mes anges gardiens étaient là, dans un coin spécial. Mais c'est un secret, je ne peux pas vous révéler mon secret. En tout cas, ça marche très bien pour moi.
C'est peut-être du côté de l'enfant à qui il a offert sa raquette qu'il faut chercher finalement le secret de sa victoire hier.
Je ne connais pas ce gamin, mais il était dans mes oreilles tout le match, surtout quand j'étais mené 2-7-0. Il m'encourageait, il me donnait la tactique, joue une première balle, dirige le jeu et insiste sur son revers. Il me coachait, j'ai trouvé ça trop mignon, vraiment gentil.
Un petit garçon qui a certainement fait de beaux rêves cette nuit avec son nouveau doudou, la raquette de Djokovic.
Ouais, il faut la voir, l'image de cet enfant en train de se faire offrir la raquette, tout simplement. Hystérique. L'Euro et nos Bleus qui, eux, s'envoleront dans la matinée direction Munich. Ils viennent de passer leur dernière nuit à Clairefontaine. Les hommes de Didier Deschamps qui démarrent la compétition demain soir à 21h face à l'Allemagne.
Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Caen.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 4, le 14, le 7, le 8, le 2. Hélas, la dernière minute, c'est le 14, compte des titées.
Et le journal vous était présenté par Dominique Tenza. 7h12, la politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors faut-il précipiter la fin du couvre-feu à 23h ? Faut-il supprimer le port du masque à l'extérieur ? Vous vous posez ces deux questions en fait à cause du gouvernement Olivier.
Oui, où est l'exemple, la prévention, le bon sens quand deux décisions ce week-end jettent le trouble ? Un trouble sur le message sanitaire que l'exécutif veut toujours faire passer. Vendredi soir, l'Élysée et Matignon, donc le président et son premier ministre, selon la déclaration même de l'organisateur, ont fait une exception à Roland-Garros. Ils ont autorisé le public à rester jusqu'à la fin d'un match de tennis, certes exceptionnel, on en a parlé. Emmanuel Macron et Jean Castex, soucieux du respect de l'ordre et de peur du ridicule, ont pris les devants pour échapper à une rébellion porte d'Auteuil. Nous ne sommes jamais loin de l'improvisation permanente. Avec des décisions pareilles, les complotistes n'ont plus besoin de complot. Nous avons bel et bien assisté vendredi soir à un fait du prince, un passe-droit injustifiable.
À moins qu'il faille en finir avec le couvre-feu. 23h.
Oui, c'est ce que cet événement semblait vouloir dire. Puisqu'il est possible de faire une exception, pourquoi ne pas lever cette interdiction justement ? D'autant qu'au même moment, vendredi soir, des jeunes qui faisaient la fête à Paris étaient évacués avec des gaz lacrymaux et des tirs de LBD. Au moment de la liberté retrouvée, au moment où les indicateurs de l'épidémie reviennent au vert, au moment où le pouvoir en fait des tonnes sur le retour de l'optimisme, ce message anti-jeune, avec le préfet l'allemand toujours zélé, est pour le moins curieux. Le côté deux salles, deux ambiances est saisissant. Enfin, deux salles. Justement, il ne s'agit pas de salles, d'où cette dernière question. Faut-il lever le port du masque obligatoire à l'extérieur ?
Et votre réponse ?
Eh bien, pour l'instant, c'est l'Arlésienne. Peut-être fin juin, peut-être pas partout. Un ministre très bien placé me l'a confié la semaine dernière. Si ça ne tenait qu'à lui, il aurait levé l'interdiction. Mais voilà, la crainte du gouvernement, c'est le relâchement du port du masque à l'intérieur s'il n'est plus obligatoire dehors. Nous voilà presque revenus aux premières heures de la gestion de l'épidémie. Les Français sont trop bêtes pour comprendre. Alors que c'est simple, le Covid est une maladie qui se transmet à l'intérieur et qui est hyper contagieuse quand ces lieux sont fermés et mal ventilés. Le risque n'est pas à l'extérieur. Le décalage entre l'épidémie, les messages du gouvernement, les contraintes quotidiennes grandit de jour en jour. Normalement, selon le cours de ce quinquennat, ça devrait finir en polémique dans 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine, ou peut-être même dès demain.
Olivier Bost, je vous rappelle notre rendez-vous de 7h40 avec Jérôme Salomon, justement, directeur général de la Santé. Il répondra aux questions de Benjamin Sportouche. Dans un instant, notre enquête en région lyonnaise dans les pas de Karim Benzema. Et puis nous ferons un point complet sur le baccalauréat version 2021 avec notre brigade de l'actualité, en l'occurrence Marie Guerre. A tout de suite sur RTL.
L'Euro sur RTL.
À la veille de l'entrée de la France dans la compétition, revenons sur la surprise du chef de Didier Deschamps lors de l'annonce de sa liste pour l'Euro 2021. Direction la région lyonnaise, le berceau de Karim Benzema, le numéro 19 de notre équipe de France. Bonjour Raphaël Vantard.
Bonjour.
En deux matchs, sans marquer de but, malgré le passif des affaires de la Sextape et ses propos sur le sélectionneur Didier Deschamps, Karim Benzema semble redevenu incontournable.
Oui, normal, naturel, presque banal. Voilà les réactions dans une exagération toute lyonnaise lorsque l'on parle entre Rhône et Saône du retour en bleu de l'enfant du pays du gamin de Bron, Karim Benzema.
C'est très bien tout ce qui s'est passé pendant ces années, et voilà quoi. C'est un excellent joueur et puis il mérite. Ah bah, on est fan. Hein.
On fait du foot, pas de la politique.
Ce qui se passe en dehors, ça reste en dehors, ça s'est pas passé sur le terrain. En gros, comme si on n'entend pas parler sur le terrain, Benzema il revient.
Pas de fine bouche non plus au Terraillon, le quartier de Bron où Karim Benzema a grandi. L'attaquant des Bleus n'a eu que trois clubs, le Real de Madrid où il devient galactique, l'Olympique Lyonnais où Karim devient Benzema et le Sporting Club Terraillon où il mûrit son rêve de grandeur. Tarounas, le président du club, était là pour les premiers pas de Benzema.
C'était de l'herbe à l'époque, hein. C'était pas du synthétique, mais et là il y avait la butte là. Et puis là il tapait toujours dans le mur. Et récupérer le ballon. Mais après, on savait quand même, hein, qu'il avait du potentiel. On va dire l'équipe de France, parce que là, j'espère qu'il va faire du bien, quoi.
En cas de victoire de la France à l'Euro, le Sporting Club du Terraillon espère obtenir une faveur, baptiser son stade au nom de Benzema.
Plus souvent habitué aux polémiques ces dernières années, comment d'après ses proches, Karim Benzema est parvenu malgré tout à revenir.
C'est un caractère assez hors norme que l'on a vu très petit. Voilà ce que dit par exemple Farid Benzema, l'oncle de Karim, qui voit toujours dans son neveu un homme davantage obsédé par la réussite sportive que sa réputation.
Depuis tout petit, c'était le foot. Il se levait avec le ballon, il se dormait avec le ballon. Et je suis content de le voir en bleu et puis c'est émouvant quand même. Hein. Il a une force de caractère déjà, il est patient et il est psychologiquement, il est costaud. Et je pense que c'est dans les moments difficiles où il est encore plus fort. Il a continué de travailler. Je pense que c'est un retour gagnant, on va dire. On attend du très bon maintenant.
Armand Garrido a eu la chance de voir éclore Benzema au centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Il est resté très proche de l'attaquant madrilène.
Karim, c'est parti comme une fusée, quoi. Un pétard qui vous pète dans les mains et qu'on peut pas contrôler. Ça va plus vite qu'on le pense. Je dois dire que son papa m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. Mais quand il voyait qu'il y avait quelque chose, il venait au renseignement. Et puis, dans la voiture, il y avait la deuxième couche qui arrivait, quoi. S'il est vraiment capable de faire des différences, j'ai envie de dire, vous allez voir.
Vous allez voir, cri d'espoir des proches de Benzema. Comme les supporters des Bleus, ils frissonnent à l'idée d'une blessure. Ils attendent désormais de pouvoir enfin scander le nom de l'attaquant numéro 19 pour son premier but lors de cet Euro.
Merci beaucoup Raphaël Vantard et donc bien entendu le match sera à suivre demain soir sur RTL et M6.
RTL Matin, 7h-9h30 avec Yves Calvi.
Il est 7h21, on y est, le bac 2021, le bac de la réforme Blanquer avec son nombre réduit d'épreuves. D'abord la philo, ce sera jeudi, et ensuite le grand oral entre le 21 juin et le 2 juillet. Mais le bac 2021, c'est aussi un examen en mode Covid, on en parle ce matin avec Marie Guerrier. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors Marie, quel est le protocole sanitaire ?
Alors les candidats doivent être espacés de 2 mètres, donc on va les répartir dans davantage de salles d'examen, oui. Des salles bien aérées, du gel hydroalcoolique à disposition, et puis port du masque obligatoire pendant les épreuves écrites. Et aussi pendant les épreuves orales. À cause de l'épidémie et de l'année qui a été perturbée, l'écrit de philo est aménagé. Oui. Les candidats auront 3 sujets de dissertation au choix au lieu de 2. Et puis surtout, on retiendra la meilleure note entre la moyenne de l'année et la note à l'examen.
Que se passe-t-il si un élève est cas Covid ou cas contact d'ailleurs ?
Isolement obligatoire, hein, bien sûr. C'est ce qu'on appelle un cas de force majeure. Donc les candidats ne peuvent pas passer l'épreuve. Alors soit on prend en compte sa moyenne de l'année en philo, soit il estime que sa moyenne n'est pas suffisante, qu'il peut faire mieux, il pourra alors passer l'épreuve en septembre à la session de remplacement. Pour le grand oral, là, pas le choix. Il faudra le passer en septembre.
Et bien justement, ce grand oral, c'est l'épreuve inédite de ce bac 2021. Ça va se passer comment, Marie ?
Là aussi, quelques aménagements Covid. Mmh. Les élèves pourront garder leur brouillon sous les yeux pendant leur prestation orale, alors qu'initialement, la réforme prévoyait une prise de parole sans notes. Et puis, une fiche signée par les professeurs indiquera si des chapitres du programme n'ont pas pu être étudiés pendant l'année. Les jurys composé de 2 enseignants, savent bien que les conditions n'ont pas été idéales pour préparer cette épreuve, que tout le monde teste en fait pour la première fois, les profs comme les élèves. Personne ne sera saqué, sauf à n'avoir vraiment rien préparé.
Alors, est-il vrai que les élèves savent déjà, en fait, ils ont le bac ?
Oui, mais la réforme prévoyait 40% de contrôle continu dans la note finale du bac. Mais à cause de l'épidémie, on est à 82% cette année. Les épreuves de spécialité prévues en mars ont été annulées, remplacées par la moyenne de l'année. Donc, avant même de passer la philo et le grand oral, en faisant leurs calculs, les élèves savent s'ils ont le diplôme en poche. L'enjeu des épreuves à venir, c'est pour ceux dont les notes sont trop justes, et puis ceux qui vont tout faire pour décrocher des mentions.
Merci pour toutes ces précisions et cette semaine cruciale pour tous nos étudiants qui passent, nos lycéens qui passent le bac, très exactement. Merci Marie Garrier. Dans un instant, nos grosses têtes, pépites musicales et Louis Bonin et sa météo qui reste pour l'instant absolument magnifique. Nous sommes d'accord ? Ben oui, je sais bien que vous êtes là. À tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Anthony Martin.
Bonjour et bonjour à tous.
On vous retrouve pour notre pépite musicale quotidienne en ce lundi matin. Qu'avez-vous choisi pour nous ?
Alors je vous propose d'écouter les deux seuls enregistrements des Beatles dans une autre langue que l'anglais. Fin janvier 1964, John, Paul, George et Ringo étaient à Paris en résidence à l'Olympia. C'était les fameux concerts où ils partageaient l'affiche avec Sylvie Vartan et Trini Lopez. Ouais. Ils avaient du succès chez nous, mais moins en Allemagne. Et la filiale allemande de leur maison de disques, de leur label, a fait pression pour qu'ils enregistrent deux de leurs chansons en allemand.
Oula.
Les Beatles se sont donc retrouvés au studio Pathé Marconi de Boulogne-Billancourt pour chanter en allemand. Un traducteur avait fait le voyage, était venu les rejoindre pour leur apprendre les paroles phonétiquement. Ils ont commencé la séance en studio par « I wanna hold your hand » qui est devenu « Comme Girmir deine Hand ». C'est comme Guérin, Deine Hand.
Oui.
Et la seconde chanson enregistrée en allemand par les Beatles ce jour-là fut She Loves You.
Ah bah oui.
Lipdick par les Beatles.
Oui.
Dans leur répertoire.
C'est une drôle de langue quand même.
C'est, ah oui, c'est
ah
très
oui,
drôle.
Oui.
Dans leur répertoire, on entend bien quelques mots en français, dans la chanson Michel qu'on connaît tous, vaguement de l'espagnol, l'italien et du portugais dans Sinking, mais ce sont là les deux seules fois où les Beatles ont chanté des morceaux en intégralité dans une autre langue que l'anglais. On peut retrouver ces documents sur leur album Passmaster.
Beatles en version allemande. Voilà une fois de plus la définition d'une pépite musicale. Merci Anthony.
Merci, à demain.
On se retrouve demain matin pour une autre pépite. Et on retrouve en français nos grosses têtes pour une nouvelle semaine de rire et de bonne humeur. Commençons la semaine par une bonne citation.
Une œuvre d'art devrait toujours nous apprendre que nous n'avions pas vu ce que nous avons vu.
Picasso.
Picasso,
Magritte.
Non.
Magritte.
Magritte, non,
mais
c'est pas
un critique d'art.
Aragon. Tout le monde connaît sa ville et natale. Et
okay. Paul Valéry.
Bonne réponse de Jean Benguigui.
Il y a aussi un très joli cimetière à Sète.
Bien sûr, deux mêmes cimetières.
Oui, voilà.
Un très beau théâtre.
Parce qu'il y a le cimetière marin, dans lequel n'est pas Georges Brassens.
Mais où il y a Paul Valéry.
Voilà, et un autre cimetière où est Georges Brassens.
Voilà.
Ils auraient pu enterrer les deux dans le même cimetière. Ça nous aurait fait des économies à ma femme et moi, comme disait Pierre Bénichou. Il y a deux cimetières.
Vous avez vu que là, il rapatrie le corps de Johnny, vous avez vu ça ?
Non.
Non ? Ah bah oui, mais c'est obligé, c'est pour les impôts, il doit passer 6 mois là-bas, 6 mois ici.
On les retrouve dès 15h30. Notre météo, Louis Baudin.
Oui, avec du soleil, de la chaleur aujourd'hui, du grand ciel bleu dans la plupart des régions. À surveiller un risque d'orage quand même en fin d'après-midi sur les Pyrénées pouvant déborder en plaine. Petit risque d'averse également sur l'Auvergne ou encore les Alpes du Sud. Ce n'est qu'un risque. Ailleurs donc, sous ce soleil, les températures vont encore grimper par rapport à hier. Même si ce matin, il y a une certaine fraîcheur dans le moitié nord. On est parfois en dessous des 10 degrés. Cet après-midi, 23 à 26 degrés près de la Manche. 28 à 32 degrés dans toutes les autres régions. 35 degrés même près de la vallée de la Garonne.
Merci beaucoup Louis Baudin, RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, tout info avec Agnès Bonfillon pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 14 juin. Bonjour Agnès.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et cette question, trop de précautions en Corse. Le risque de pollution semble écarté après le dégazage illégal d'un navire vendredi. Les restes de la nappe d'hydrocarbures se dirigent vers le sud. Pourtant, la fermeture des plages sur la côte est de l'île reste de mise. Une mesure que ne comprend pas ce restaurateur installé à Aléria.
On vient à peine d'ouvrir. Je ne vois pas trop l'intérêt de communiquer sur cette pollution qu'on ne voit pas. Fermer la plage encore plus. Je pense que nos autorités ne réfléchissent pas beaucoup sur l'économie de la région. Ce n'est pas très très malin de communiquer sur une pollution qu'on ne verra peut-être pas du tout. Et empêcher les gens de se baigner, la pollution, c'est la pollution. C'est pas un virus. Si la pollution arrive, de toute façon, on la verra. Et si elle n'arrive pas, c'est stupide de fermer. Économiquement, ça fait du mal à tout le monde. On a surtout des gens qui viennent à la plage, qui viennent manger au resto, boire un verre. Et là, aujourd'hui, la plage est déserte. Pour moi, la décision est précipitée quand même.
Des propos recueillis par Mourad Djabari.
Nous ferons à 8h20 le point avec le spécialiste de la vie maritime, Christian Bûcher.
Des chiffres encourageants sur le front du Covid. Aucun décès lié au virus n'a été enregistré dans les Hauts-de-France hier. C'est une première depuis septembre. Je vous rappelle que demain, la vaccination sera ouverte aux adolescents qui le souhaitent. Seule obligation, avoir l'autorisation des parents.
Ce lundi, journée mondiale du don du sang.
L'occasion d'un nouvel appel d'urgence avec un slogan « Prenez le relais, un mois pour tous donner ». Une initiative en partenariat avec le groupe M6. Les réserves sont au plus bas alors que les besoins, eux, sont de plus en plus forts, comme l'explique François Toujat, président de l'établissement français du sang.
Des opérations qui avaient été reportées à l'hôpital sont aujourd'hui maintenues et on est dans une très forte consommation de sang. On a donc besoin de sang. Alors, objectif ambitieux, mais objectif nécessaire, il faut que nous puissions atteindre avant la mi-juillet 120 000 poches de sang en réserve. Nous sommes aujourd'hui à 85 000. On a donc 3 semaines pour tous tout donner.
Le président de l'EFS qui était l'invité de Vincent Parisot sur RTL hier soir. Dans l'actualité également, une page se tourne en Israël. Benjamin Netanyahou n'est plus Premier ministre après 12 ans de règne. Le Parlement accorde sa confiance à Naftali Bennett, un millionnaire ultra-nationaliste. Joe Biden l'a immédiatement félicité. Le président américain qui, après le sommet du G7 au Royaume-Uni, est arrivé cette nuit à Bruxelles pour un sommet de l'OTAN.
L'armée française, elle, change de chef.
Le général François Lecointre quittera ses fonctions après le 14 juillet. Il sera remplacé par le général Thierry Burquard. Ce départ, c'est l'assurance, dit-il, de préserver l'image de la neutralité politique de l'institution. Le général Lecointre était l'invité du grand jury RTL ce dimanche. L'occasion pour lui de revenir sur le rôle de l'armée que certains aimeraient lui faire jouer dans la politique de sécurité.
Les armées ne sont absolument pas construites pour faire du maintien de l'ordre. Les armées sont faites pour délivrer la violence de manière délibérée. Donc vous voyez bien qu'une armée qui se prépare entièrement autour de cette mission extrême qui est de donner la mort, cette armée-là, elle n'est pas faite et ce n'est pas un outil qu'on peut engager face à nos concitoyens pour faire du maintien de l'ordre.
Le Français Rémi Daillé, soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement de la petite Mia au mois d'avril, a bien été expulsé de Malaisie avec sa femme et ses enfants. Leur transfert vers la France, lui, est suspendu car l'épouse enceinte a dû être hospitalisée lors d'une escale à Singapour. On passe au sport.
L'Euro sur RTL.
Le début de l'Euro, c'est demain pour nos Bleus avec un premier match face à l'Allemagne. Et d'ailleurs, ils ne vont pas tarder à s'envoler pour Munich, Nicolas Georgerot.
Oui, les Bleus ont passé leur dernière nuit à Clairefontaine. Ils quittent leur centre d'entraînement tout à l'heure à 9h30, direction l'aéroport de Villacoublay au sud de Paris pour un décollage en milieu de matinée. Une arrivée à la mi-journée à Munich, installation au cœur de la cité bavaroise. Le programme des Bleus a été modifié. Ultime entraînement de l'équipe de France à 16h30 au lieu de 20h30 dans le stade du Bayern. Ça rappellera de bons souvenirs à Kylian Mbappé, buteur avec le PSG en quart de finale de Ligue des Champions sur cette pelouse. Hier, le groupe était au complet pour l'entraînement. Didier Deschamps avait tous ses joueurs aptes et disponibles pour le coup d'envoi de la compétition.
Nicolas Georgerot pour RTL. Ce dimanche, l'Angleterre a battu la Croatie 1-0. L'Autriche a dominé la Macédoine du Nord 3-1. Et puis victoire des Pays-Bas face à l'Ukraine 3-2. Je vous rappelle que Djokovic a remporté son deuxième Roland-Garros hier, son 19e titre en Grand Chelem. Le Serbe numéro 1 mondial a fait une incroyable remontée face au Grec Tsitsipas. Score final 6-7. 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.
Merci beaucoup Agnès Bonfillon. On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, nous parlerons d'une politique, celle de l'État français qui pendant 40 ans a transféré plus de 2000 enfants réunionnais en métropole et pas forcément pour une vie meilleure.
On se retrouve dès 8h40. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Il est 7h35.
Oui.
Vous nous parlez de saucisses ce matin.
Oui. Saucisse et diplomatie. Un improbable mélange. On connaissait le gentleman farmer, oui. Le raton laveur, et bien voici le charcutier diplomate.
Voilà,
ça s'est passé au G7, et je vous raconte cette histoire dans un instant.
Une nouvelle guerre franco-britannique.
Oui.
À tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h37, l'Angleco avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Alors c'est une nouvelle surprenante. La guerre de la saucisse fait rage entre la France et l'Angleterre, dites-moi.
Oui, on avait connu la guerre de Cent Ans, oui. Et dans un registre plus anecdotique, la guerre de la coquille Saint-Jacques, mm-hmm. Vous souvenez, mm-hmm. C'est tout récemment. Voici qu'à l'occasion du G7 organisé en Cornouailles, la guerre de la saucisse s'enflamme. Elle a littéralement pourri l'ambiance du G7. À l'origine de ce conflit qui oppose Emmanuel Macron à Boris Johnson, le Premier ministre britannique, il y a le Brexit qui continue à mettre le cirque en Europe pour des choses sans détour.
Tout ça n'est toujours pas réglé ?
Bah, moins que jamais. Ah bon. Voilà la situation. L'Irlande est, vous le savez, coupée en deux pays.
Oui.
Au sud, c'est la République d'Irlande, indépendante, de tradition catholique. Au nord, un petit bout de territoire qui est rattaché au Royaume-Uni. Il est de tradition protestante. Voilà 23 ans que les deux ont signé un traité de paix, après des années de guerre, des milliers de morts, sous l'égide de Tony Blair. C'est l'accord dit du Vendredi Saint. Accord fragile, toujours miné par les passions nationalistes et religieuses des uns et des autres. Pas question donc, même avec le Brexit, de rétablir une frontière fermée entre les deux moitiés, oui. Sauf à provoquer une inflammation de cette cicatrice. Même Joe Biden, le président américain, lui-même d'origine irlandaise comme la plupart des présidents américains d'ailleurs, s'en est mêlé et il a mis en garde le Premier ministre britannique. Et pourtant, le Brexit impose une démarcation. Parce que désormais, le Royaume-Uni est en dehors de l'Europe, les produits britanniques ne peuvent plus passer sans contrôle chez nous, en Europe, pas plus que les produits européens là-bas. D'où le casse-tête, il faut une frontière pour délimiter le Royaume-Uni et pourtant, on ne peut pas la faire passer entre les deux Irlandes.
Alors, je vous ai suivi jusqu'ici, mais comment les saucisses interviennent-elles dans cette affaire ?
Ça, c'est méritant de m'avoir suivi jusqu'ici. Pour sortir de l'impasse, l'accord du Brexit prévoit que l'Irlande du Nord fait partie, au plan commercial, de l'Europe.
Ah oui ?
Même si, politiquement, elle appartient toujours au Royaume-Uni. Autrement dit, le contrôle des produits, il a lieu entre la grande île anglaise, la Grande-Bretagne, et le petit territoire irlandais, au sein même du Royaume-Uni, entre Londres et Belfast. Londres n'aura donc bientôt plus le droit d'acheminer des saucisses, on y vient, et de les mincer de bœuf à Belfast, sans les contrôles sanitaires très stricts que l'Europe impose. D'où l'irritation de Boris Johnson qui s'en est pris à Macron en lui expliquant que c'était comme si les saucisses de Toulouse ne pouvaient pas être vendues à Paris, lequel Macron lui a vertement répondu qu'il fallait appliquer l'accord qui avait été signé.
Bah oui, que va-t-il se passer alors ?
Johnson menace aujourd'hui de ne pas honorer sa signature. Ah. Autrement dit, il pourrait passer outre les dispositions du traité, forcer la frontière pour acheminer ses saucisses, poussées par ceux qu'on appelle les unionistes irlandais, mm-hmm. qui ne supportent pas d'être séparés de la mère patrie par l'Europe. Ça serait alors la guerre commerciale qui s'envenimerait, hein, avec des répercussions sur d'autres secteurs, sur celui de la pêche notamment.
Excusez-moi, mais quelle histoire pour des saucisses, non ?
Oui, et pourtant, cette affaire révèle le venin du Brexit, le ressentiment de part et d'autre, oui. Après des années de négociations dures. Un accord alambiqué et inapplicable. Et un Premier ministre britannique intempérant et imprévisible, qui a l'habitude de renier ses engagements au gré de la conjoncture politique. 5 ans après le référendum, le Brexit continue à empoisonner les relations entre les deux rives de la Manche.
Merci François Langlais, L'Angleco tous les matins sur RTL. Il est 7h41, bonjour Benjamin Sport.
Bonjour et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Alors la vaccination marque le pas, comment inverser la tendance? Et puis la fin du masque, c'est pour quand?
A tout de suite avec le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon sur RTL.
RTL Matin, avec Yves Calvi.
Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.
Bonjour Jérôme Salomon.
Bonjour Benjamin Sportouche.
Merci d'être avec nous ce matin.
Merci
sur RTL.
Vous.
Il fait chaud, la canicule est là. Franchement, est-ce qu'on peut enlever le masque en extérieur ?
Alors je crois que justement il fait chaud et que toutes les Françaises et tous les Français ont envie de passer un été serein. Donc j'en appelle à leur responsabilité, encore un tout petit peu de patience vis-à-vis des mesures barrières, à leur mobilisation sur la vaccination parce que vous savez qu'on a franchi ce week-end les 30 millions de personnes primo-vaccinées. Et donc encore un effort sur la vaccination, encore un petit effort de sécurité sur les gestes barrières et nous aurons un été serein dans ces conditions.
On va y venir à la vaccination, mais vous nous dites un petit effort sur le masque jusqu'à quand? Est-ce que le 30 juin, c'est la dernière séquence du déconfinement? Est-ce qu'à cette date-là, on pourra l'enlever?
Ben vous avez noté, on a un calendrier cohérent, progressif, lié à la situation. Donc ce calendrier, les Français l'ont parfaitement compris, ils l'ont parfaitement respecté et on peut les remercier. Et donc si tout se passe bien, on lèvera encore un certain nombre de contraintes le 30 juin, si les conditions le permettent.
Donc plus de masques en extérieur à partir du 30 juin. Et en intérieur, on le gardera?
Oui, vous savez qu'en intérieur, il y a beaucoup plus de risques. Et puis, vous savez que nous devons aussi viser le plus grand nombre de personnes vaccinées, puisqu'il y a encore beaucoup de Français qui ne sont pas vaccinés. J'en profite pour passer un appel à toutes les personnes âgées, atteintes de maladies, avec des facteurs de risque, aux femmes enceintes, aux personnes qui souffrent d'une certaine forme d'obésité. Toutes ces personnes doivent être vaccinées maintenant. C'est le moment de se vacciner. C'est le mois de juin. Vous avez vu que nous avons beaucoup de doses, beaucoup de rendez-vous disponibles. Donc, allons-y. Faites-vous vacciner
encore
maintenant.
Encore un petit mot sur le masque. Vous nous confirmez qu'à partir du 1er juillet, eh bien, c'en est fini du masque en extérieur.
En sachant que toujours les mesures barrières demeureront, mais évidemment, c'est important. Les gestes barrières que les Français ont parfaitement compris, le lavage des mains, les distances, et faire attention dans les grands rassemblements.
Plutôt une bonne nouvelle. Alors passons juste au couvre-feu aussi, parce que la fin du couvre-feu, c'est le 30 juin normalement, et vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de fêtes. Est-ce que 23h, c'est pas trop tôt? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus vite pour arrêter ce couvre-feu?
Et bien là encore, on a un calendrier qui est très cohérent, qui est très progressif, que les Français respectent. On a plutôt des bonnes nouvelles. Vous avez noté aussi que ce week-end, on est passé sous la barre des 5000 cas par jour. C'est une très bonne nouvelle. Tant mieux. Maintenant, il faut encore être vigilant, il faut encore être prudent. L'exemple britannique nous montre que même avec très peu de cas et même avec un bon niveau de couverture, le virus peut repartir. Et donc, tant que nous n'avons pas atteint un maximum de personnes vaccinées, tant que nous ne respectons pas systématiquement les mesures barrières dans les conditions à risque, il faut vraiment être attentif.
Alors la vaccination, vous en parlez, elle marque le pas. On a passé certes le cap des 30 millions de primo-vaccinés, mais il y a moins de rendez-vous pour se faire vacciner aujourd'hui. Alors la rendre obligatoire cette vaccination, est-ce que c'est désormais une option?
Non, je crois qu'en fait nous sommes dans une condition optimale aujourd'hui. Au contraire, les Français ne l'ont peut-être pas réalisé, nous avons toutes les doses disponibles, nous avons tous les centres ouverts, nous avons tous les créneaux disponibles. Quand les gens regardent, ils ont parfois des créneaux dans la journée ou le lendemain. Donc c'est vraiment le moment d'y aller. C'est parce que justement, au mois de juin, toutes les doses sont là. Et donc, toutes les personnes qui ont envie d'y aller, les adolescents à compter de demain avec leurs parents. Il y a même des adolescents qui incitent les parents à se faire vacciner en même temps. Donc, c'est vraiment le moment de se vacciner.
Oui, mais comment faire pour les inciter? Il y a beaucoup de Français qui vont partir sur leur lieu de vacances.
Alors justement,
il y a la deuxième dose à faire.
Messages,
je ne serai pas là.
Exactement. Deux messages de simplicité. Il y a encore beaucoup de Françaises et de Français qui ne savent pas que s'ils ont déjà fait une infection, ils n'ont besoin que d'une injection. Donc quand vous avez déjà été malade, que vous avez eu un test positif, il faut le dire, il faut se présenter ainsi à la personne qui vous vaccine et vous n'aurez qu'une seule injection. Ça, c'est évidemment un geste de simplification important. Et puis, deuxième souplesse que nous donnons pour cet été, le rappel, la deuxième dose peut se faire de façon décalée. Et donc là aussi, on a une souplesse. Quand on sait qu'on doit partir 15 jours à la mer, et bien on peut faire sa deuxième injection en revenant de vacances plutôt que de se dire qu'on va tout décaler.
C'est-à-dire, si on l'a fait aujourd'hui, mi-juin, on pourra le faire début septembre, par exemple.
Les personnes qui vous donnent des rendez-vous, on a élargi le calendrier de deuxième injection. On peut le faire un tout petit peu plus tôt, mais surtout un tout petit peu plus tard, notamment quand on est jeune, en revenant de vacances. Et donc ça, c'est permis et on peut déjà le faire grâce au logiciel de rendez-vous en ligne. Donc, signaler que vous n'êtes pas disponible pour la deuxième dose et on vous donnera toute latitude pour décaler cette deuxième injection.
On est à 30 millions de primo-vaccinés. C'est quoi le nouvel objectif?
Le maximum. C'est tout aussi simple, le maximum, parce qu'on voit bien qu'évidemment, il faut couvrir toutes les personnes qui sont à risque de forme sévère. Les personnes atteintes d'obésité, les personnes qui ont des facteurs de risque importants, les personnes âgées, évidemment. Mais il faut aussi que les jeunes se rendent compte qu'ils deviennent des obstacles, des murs contre la circulation virale dès lors qu'ils sont vaccinés. Et ça compte pour la solidarité collective, pour la responsabilité collective contre l'épidémie qui n'est pas finie.
Et vous parlez des jeunes justement, mais donc cette vaccination des ados, elle commence à partir de demain, dès l'âge de 12 ans. Mais les parents sont inquiets, Jérôme Salomon. Le comité national d'éthique s'est montré très réservé la semaine dernière en expliquant qu'on n'avait pas assez de recul pour évaluer les risques du vaccin sur cette tranche d'âge. Est-ce que vous n'allez pas trop vite en besogne?
Non, je crois qu'en fait, les parents, comme toujours, quand il s'agit de la santé de leurs enfants, sont vigilants et c'est tout à fait normal. Le recul, par définition, nous ne l'avons pas puisque nous commençons cette vaccination. Mais vous savez qu'elle a débuté depuis plusieurs semaines aux États-Unis, en Israël et dans d'autres pays, notamment au Canada. Donc on a aussi ce recul de pays proches. Et puis par ailleurs, on est très attentif aux bénéfices risques individuels. Donc il y a évidemment une discussion avec l'adolescent. On doit évidemment demander l'accord de l'adolescent, une discussion avec les parents. Mais il y a un bénéfice collectif majeur et les adolescents souvent le comprennent presque mieux que leurs parents. C'est cette capacité de circuler, c'est cette capacité d'avoir des événements avec leurs copains. C'est la possibilité aussi d'aller chez leurs grands-parents sans aucune inquiétude. Donc ce bénéfice de revivre sereinement, il est très important et c'est une incitation très forte à la vaccination.
Mais est-ce que vous nous dites ce matin que de leur vaccination dépend l'immunité collective ?
De la vaccination la plus large de la population.
C'est-à-dire combien ?
C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre toute la pression sur les adolescents, ça ne serait pas raisonnable, mais toute la population qui est candidate à la vaccination, de 12 ans jusqu'à 99 ans, doit être incitée à cette vaccination, sur d'autant qu'elle est vraiment maintenant extrêmement aisée, extrêmement facile. Vous savez qu'on peut se faire vacciner chez son médecin traitant, en pharmacie, dans les centres. Il y a même des opérations d'aller vers, puisqu'on se déplace vers les personnes les plus isolées. Il y a des opérations sans rendez-vous. Enfin, tout ça fait qu'il y a beaucoup d'opportunités et qu'il faut saisir chaque opportunité de se faire vacciner.
Combien de vaccinations des 12-18 ans espérez-vous dans les 2-3 semaines qui viennent ?
On va voir, puisque là aussi, les parents doivent donner leur accord. Les adolescents
seul parent ou deux, pardon, Jérôme Salomon ?
Il y a l'accord des deux parents, mais on doit avoir la présence d'un seul parent. Ça, c'est important. L'attestation peut être téléchargée en ligne sur le site du ministère. Donc, c'est assez facile. Vraiment, la vaccination des adolescents, d'ailleurs, a déjà commencé dans certains centres et on a vu que c'était extrêmement simple, très bien accepté, très bien supporté par les adolescents qui sont ravis. Donc les adolescents sont aussi force.
Vous êtes plutôt optimiste sur les adolescents, en fait.
Alors oui, parce que je crois que les adolescents ont beaucoup entendu parler de cette épidémie. Je crois que ce sont eux qui ont le plus souffert de cette épidémie. Des fermetures de classe, de ne pas voir leurs copains, d'avoir un impact sur leur santé mentale, sur leurs relations sociales. Et donc, il y a beaucoup d'adolescents qui sont même des ambassadeurs, je dirais, de la vaccination auprès de leurs parents ou auprès de leurs proches.
Quel que soit le taux de vaccination, le professeur Delfrécy qui était à votre place la semaine dernière, le président du conseil scientifique, nous disait qu'on aurait une quatrième vague certainement à la rentrée, moins grave, tout de même parce qu'il y aura la vaccination, mais qu'il faut s'y attendre.
C'est pour ça que tout le dispositif doit rester pérenne. Le virus continue de circuler sur l'ensemble de la planète. L'épidémie est loin d'être terminée. La pandémie est toujours très présente. Donc, nous aurons une très grande couverture vaccinale, la plus grande possible pour éviter, freiner la circulation virale. Mais nous aurons toujours besoin des mesures barrières tant que la pandémie n'est pas terminée. Et nous aurons toujours besoin de notre dispositif testé, alerté, protégé. Oui. Donc, il faut aussi passer ce message pour l'été, si on veut un été serein, de ne pas hésiter à se tester au moindre doute. Évidemment, d'alerter immédiatement les autorités s'il y a un début de cluster, un début de cas groupé sur votre lieu de vacances, et puis évidemment l'isolement de toute personne symptomatique.
Les fêtes qu'on voit là, les scènes de liesse, et c'est normal, il fait beau, on a envie de sortir, et puis il va y avoir l'euro. Est-ce que ça vous inquiète, est-ce que ce relâchement ?
Non, c'est naturel, mais je dirais qu'avec un peu de responsabilité justement sur l'organisation de ces fêtes, parce qu'évidemment les fêtes doivent avoir lieu, et c'est normal d'avoir envie de se rassembler, mais donc de la responsabilité, du respect des mesures barrières, la protection par la vaccination, parce que ça peut être aussi l'occasion de parler de la vaccination lors de ces moments collectifs et conviviaux, fera que plus on sera responsable, plus on sera engagé dans la vaccination, plus l'été sera serein et surtout, plus la rentrée sera normale.
On sera sorti d'affaire quand, Jérôme Salomon ?
On sera sorti d'affaire quand on aura régler cette pandémie. Et vous savez que dans les cycles viraux, on en sait très peu, aussi bien sur la grippe que sur le coronavirus. Il y a beaucoup de surprises. On a toujours appris à rester humble, vigilant et prudent face à cette circulation virale.
Vous ne pouvez pas nous dire ce matin, début 2022, ce sera un
Non, je ne peux pas faire de prévision. Je pense qu'on est toujours très attentif à l'évolution de la situation. On peut avoir des bonnes surprises comme ce week-end avec le franchissement un peu en avance du cap des 30 millions. Aussi une bonne surprise sur la baisse de l'épidémie, c'est une très bonne nouvelle parce que là encore, elle est presque plus rapide que prévu. Mais il peut y avoir des surprises, le variant Delta notamment.
Ah, vous avez une inquiétude sur ce variant Delta, écoutez, également aussi appelé indien, parce qu'il est beaucoup plus contagieux que... il est très contagieux au Royaume-Uni.
Alors, il est contagieux partout, c'est pas uniquement au Royaume-Uni.
Et il est
Delta, effectivement, pour ne pas stigmatiser le pays d'origine. C'est un variant qui est probablement beaucoup plus contagieux, qui donne sans doute un peu plus de formes sévères, qui a atteint un pays qui était à un faible niveau d'épidémie et à fort niveau de couverture vaccinale. Donc ça incite à la prudence, ça incite à l'humilité et ça incite à rester extrêmement vigilant dans les prochaines semaines.
Les vaccins protègent pour l'instant contre ce variant ?
Les vaccins protègent très bien contre ce variant, notamment Delta. Ça a été démontré par les Anglais. Et donc c'est vraiment une incitation à se faire vacciner, quel que soit le vaccin, après deux doses, on est vacciné. Et j'insiste sur après deux doses, parce que certains imaginent qu'après la première injection,
faut faire la deuxième dose.
On est déjà immunisé, donc il faut bien deux injections.
En 10 secondes, Jérôme Salomon, personne ne veut plus du vaccin AstraZeneca. Est-ce qu'on peut désormais s'en passer, puisqu'on a beaucoup d'autres vaccins à disposition?
Non, il y a beaucoup de gens qui... D'abord, on a beaucoup de vaccins à disposition. C'est toujours très bien d'avoir plusieurs vaccins selon les personnes. Et puis, c'est un vaccin qui se déroule très bien, qui est bien toléré. Et donc, beaucoup de gens l'utilisent. Et ça peut être extrêmement utile d'avoir plusieurs vaccins.
Merci beaucoup, Jérôme Salomon. Merci. Bonne journée à vous.
Jérôme Salomon qui nous affirme que pour la vaccination, toutes les doses sont là et tous les créneaux sont ouverts. Et concernant la vaccination de nos ados, accord des deux parents avec la présence d'un seul parent au moment de la vaccination. Nous sommes désormais passés sous la barre des 5000 cas par jour, vient de nous dire le directeur général de la Santé. Merci à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Et Cyprien Signy surfe avec les meetings politiques des régionales dans un instant.
RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Signy.
Et vous surfez, Cyprien, avec les meetings de La République En Marche.
Du beau monde au Parc Floral de Paris pour un grand meeting en plein air ce week-end. Elisabeth Borne, Jean-Michel Blanquer, mais surtout une maîtresse de cérémonie complètement en roue libre. Bienvenue au Chiapa Comedy Club.
Ladies and gentlemen, are you ready?
Marlène Schiappa en chauffeuse de salle, et franchement ça vaut le détour. Hein.
Bah, vous êtes super, c'est une excellente énergie positive, parce que moi je crois que c'est pas parce qu'on est ministre qu'on est obligé d'être sinistre.
Ah bah ça c'est sûr, hein. Du coup elle part en plein stand-up.
J'allume une chaîne d'info, je vois un éditorialiste et il dit oh, j'en ai marre des militants qui dansent, j'en ai marre des gens en terrasse, j'en ai marre de McFly et Carlito. Pourquoi tu t'énerves ?
Ouais, pourquoi tu t'énerves, mec ? Un vrai stand-up, je vous dis. Mais là où elle excelle vraiment, c'est pour mettre le feu au meeting. Oui, avec le Covid, il n'y a plus d'ultra dans les stades en France, mais il y a Marlène Schiappa. Donc je vous rappelle, hein, au premier rang, oui. Elisabeth Borne, Jean-Michel Blanquer, le truc carré, quoi, hein, vous visualisez. Et d'un coup, Marlène sur scène.
Dans le parc floral, se met à chanter. Allez, debout,
de France,
qui va s'ambiancer. Votez Laurent.
Allez, debout Jean-Mi au premier rang, fais tourner la cravate. Bon alors tout ce beau monde était là pour soutenir le candidat de la majorité présidentielle, Laurent Saint-Martin. Et alors Marlène, elle avait bien fait les choses, hein, puisque dans un message vocal envoyé aux militants que Le Point s'est procuré, avant le meeting, elle les avait bien préparés, elle les avait prévenus, écoutez bien.
Je me permets de vous poster un petit vocal depuis Paris, c'est Marlène. On aurait vraiment besoin d'avoir une super ambiance à ce meeting. Je compte sur vous. Quand on va demander la surprise de juin, la réponse est évidemment Laurent Saint-Martin. Et donc, je compte vraiment sur vous pour qu'on ait une ambiance de folie. Voilà.
Oui, une ambiance de folie, les gars.
Préciser, oui.
Vous avez compris, hein. Surprise de juin, Laurent Saint-Martin. Et donc, au moment crucial, ben...
Et la surprise de juin, ce sera Laurent...
Saint-Martin.
Laurent...
Saint-Martin !
Laurent !
Saint-Martin !
On vous entend pas jusqu'à Gambetta !
Ah bah on les entend même nulle part, hein, ce bide. Pourtant, ils étaient prévenus, mais elle lâche pas, Marlène !
La surprise de juin, c'est Laurent !
Saint-Martin ! Non, c'est bon, arrête, ça marche pas, c'est gênant, là. Alors, pour se refaire, elle a tout misé sur la séquence émotion.
Ah. Et moi, je voudrais remercier quelqu'un qui a toujours été là quand notre pays a traversé des moments difficiles, qui a été là, qui a été en soutien, qui a été au rendez-vous avec les Français. Et cette personne, je vous propose qu'on lui envoie une minute d'énergie très positive. Emmanuel Macron ! Macron, président !
Non, mais qu'on lui enlève le micro ! Qu'on lui enlève le micro et dire que tout de suite après les régionales, on va avoir la présidentielle. Moi, je suis pas prêt. Hein.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, Israël tourne la page de Benjamin Netanyahou.
L'ancien Premier ministre quitte le pouvoir dans l'amertume. Il étrille déjà son successeur. Bas les masques en extérieur après le 30 juin. Le directeur général de la Santé vient de le confirmer sur RTL. Et puis les Bleus en route pour l'Allemagne. Le grand choc, c'est demain. Et à Munich, c'est déjà tout vu.
Je veux dire à chaque Français qui nous écoute que c'est l'Allemagne qui va gagner.
La météo, Louis Baudin.
Oui, bah c'est très simple. Je vous mets du ciel bleu partout, oui. Presque. Un petit risque d'orage en fin de journée près des Pyrénées. Une averse sur le massif central et les Alpes, c'est tout. Et sous ce soleil, de la chaleur, forte chaleur même, puisqu'on atteindra 23 à 26 degrés près de la Manche, mais 28 à 32 degrés dans les autres régions et 35 degrés même près de la vallée de la Garonne.
Vous savez quoi ? On accepte votre météo.
Bon, bah merci.
RTL Matin.
Mais tout d'abord à Nice, l'histoire de ce jeune homme devenu star malgré lui. Rami apparaît dans un film de Netflix, Sentinelle, qui fait d'ailleurs un carton numéro 1 aux États-Unis, deuxième en France. Il a été filmé à son insu par la production et en plus, on le fait passer pour un méchant, Michael Lefebvre.
Rami Sally est choqué. Non seulement il n'a jamais donné son accord pour figurer dans le film Sentinelle, mais en plus, il y est discriminé.
On voit deux jeunes barbus, comme ils disent Netflix, munis de sac à dos, se serrent la main et se séparent. Comme si dans notre sac à dos, on avait une bombe, on avait quelque chose. Moi, j'ai halluciné de voir ça. J'ai été filmé par hasard. J'avais aucune autorisation à signer, rien du tout.
Averti par des proches de sa présence dans le film, le jeune électricien de 22 ans, qui porte une petite moustache et un bouc sur le menton, mais pas de barbe, a depuis reçu des menaces.
Ah, t'es un barbu, t'es un extrémiste, un islamiste, dès que je vais te voir, ça va plus être la même vision de ta tête, plein de choses comme ça.
Alerté par courrier, Netflix a depuis modifié en catastrophe le commentaire audio de ce passage du film, tout en dédramatisant auprès de Jean-Pascal Padovani, l'avocat de Rami, l'importance de cette scène.
J'ai reçu un courrier dans lequel tout simplement il minimise les dégâts, relativise l'impact que ça a eu sur ce pauvre jeune homme.
Rami Sally demande donc réparation à travers deux plaintes déposées au civil et au pénal. Il exige également que la scène où il apparaît avec son ami soit immédiatement retirée du film.
Michael Lefebvre.
Une nouvelle ère politique s'ouvre en Israël.
Après 12 années ininterrompues au pouvoir, 15 ans au total, Benjamin Netanyahou a passé la main dans la douleur à son successeur Naftali Bennett, qui a réussi à obtenir le feu vert du Parlement à une voix près. Netanyahou, visiblement sous le choc et un brin mauvais perdant.
Je me battrai chaque jour contre ce gouvernement de gauche néfaste et dangereux pour le faire tomber. Et avec l'aide de Dieu, ça arrivera beaucoup plus vite que vous ne le pensez.
L'ex déjà au combat, il faut dire que son successeur a réuni une coalition des plus hétéroclites. Beaucoup disent que ça ne tiendra pas en Israël. Pour RTL, Stéphane Amar.
Le nouveau Premier ministre, Naftali Bennett, devra déployer des trésors de diplomatie pour diriger la coalition la plus hétéroclite qu'Israël ait connue. Ce chef d'entreprise millionnaire, ancien soldat d'élite, est lui-même un religieux nationaliste, farouchement opposé à la création d'un État palestinien et partisan de l'annexion des deux tiers de la Cisjordanie par Israël. Sa coalition va de la gauche pacifiste jusqu'à la droite radicale, en passant par les arabes islamistes. Tous se sont retrouvés autour d'un même objectif, chasser Benjamin Netanyahou du pouvoir. Cela suffira-t-il à faire tenir cette coalition ? Pas sûr. Bennett ne dispose que d'un siège de majorité à la Knesset et ses anciens alliés du Likoud ne lui pardonnent pas sa trahison et son alliance avec la gauche et les Arabes. Hier, ils l'ont violemment chahuté à la Knesset lors de son discours d'investiture. Demain, ils saisiront la moindre occasion pour faire tomber son gouvernement. Après 12 ans de règne de Benjamin Netanyahou, Israël reste un pays déchiré.
Stéphane Amar, à peine intronisé, Naftali Bennett a reçu un premier coup de fil de Joe Biden qui dit avoir hâte de travailler avec lui. Le président américain poursuit sa tournée européenne. Il est aujourd'hui à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN. En Birmanie, l'ouverture du premier procès d'Aung San Suu Kyi, l'ancienne dirigeante renversée par un coup d'état militaire le 1er février, est notamment poursuivie pour importation illégale de talkie-walkie.
8h04, on revient en France.
RTL. Régional 2021. Journal de campagne.
À moins d'une semaine maintenant du premier tour, gros plan sur ce qu'il faut retenir avec vous, Marie-Bénédicte Allaire, bonjour.
Bonjour.
D'abord la photo du jour.
Oui, celle de François de Rugy, tout sourire aux côtés d'Édouard Philippe. Le maire du Havre a porté hier son soutien à son ancien ministre, tête de liste macroniste en Pays de la Loire, quoi de plus normal. Sauf que la veille, le même Édouard Philippe partageait une bière pas loin de là, à la Baule, avec la LR Christelle Morançais, candidate à sa succession. Il n'en faut pas plus pour que Mathieu Orphelin, la tête de liste écologiste, y voit la preuve flagrante que LR et Marcheur, a priori adversaires, négocie en sous-main une alliance de second tour pour l'empêcher de gagner la région.
La déclaration du jour.
Celle de Jean-Yves Le Drian, le patron du Quai d'Orsay, sort de sa réserve pour exhorter ses héritiers désormais fâchés à se réconcilier. L'un, Loïc Chesnais-Girard, socialiste, est son successeur à la région Bretagne. Le second, Thierry Burlot, a quitté la majorité régionale en avril pour mener une liste En Marche. Dans Ouest-France, Le Drian leur demande de s'unir au second tour face au risque RN. En réalité, ce qu'il redoute, c'est une alliance PS-écolo au second tour. Mais son influence est-elle toujours intact en Bretagne, on verra.
Et puis l'info du jour.
En Auvergne-Rhône-Alpes, le RN Andréa Cotarac annonce la suspension de la campagne d'une candidate en position éligible, Juliette Planche, qui a relayé des propos antisémites. Suspension par retrait, nuance, car la liste est déjà déposée.
Marie-Bénédicte Allaire. Jérôme Salomon le confirme ce matin sur RTL. Si les conditions le permettent, on pourra enlever le masque en extérieur après le 30 juin. Le directeur général de la Santé demande encore un peu de patience avec les gestes barrières. Il précise que la baisse de l'épidémie est plus rapide que prévu.
Dans un instant sur RTL, le procès d'une insoutenable emprise qui a conduit à la mort de Julie Douib en Corse en 2019. La jeune femme avait été tuée par son ex-compagnon en 2019. A tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin.
8h09, la suite du journal de Jérôme Florin. Le procès de Bruno Garcia Crucciani reprend ce matin à Bastia.
Il est jugé depuis jeudi pour l'assassinat à l'arme à feu de son ex-compagne Julie Douib en 2019. Il y a assumé ce qui s'est passé mais refuse toujours de reconnaître la préméditation. Anne Le Hénaff, vous suivez ce procès pour RTL. On découvre au fil des témoignages un homme qui exerçait sur la jeune femme une emprise effrayante. Il l'a traqué du matin au soir.
Un jour, l'accusé emmène Julie à sa salle de sport et passe commande au coach sportif qui raconte à la barre. Faut lui faire travailler un peu ses fesses, que tu la muscles là et là. Elle était toujours sur ses gardes, se souvient Sébastien. Au début, elle venait seule. Le sport est devenu son échappatoire. Je pense qu'il s'en est aperçu, puisqu'après, il venait aussi pour la contrôler. Il la traquait partout, chaque jour, avant et après leur séparation. Sébastien a ensuite eu une liaison avec Julie, mais pas question d'être en couple. Pourquoi, demande la présidente ? Ben, il y avait quand même un psychopathe qui la traquait en permanence. D'autres amis de Julie viennent raconter la même emprise. Quand elle a voulu s'émanciper, ça s'est empiré, témoigne Véronique. Il lui a dit qu'il ne s'occuperait pas des enfants pour l'empêcher de travailler. C'était son trophée, une proie, une chose. Stéphanie ajoute, elle n'avait pas le droit de prendre une nounou, de mettre les enfants à la crèche, de sortir le soir. Elle n'avait pas de famille en Corse. Elle termine dans un sanglot. Même traquée, elle a eu le goût du bonheur quelques mois avant que ce monsieur lui arrache la vie.
Anne Le Hénaff. Le retour de Willy Bardon au tribunal, condamné à 30 ans de prison en première instance pour l'enlèvement, le viol et le meurtre de la jeune banquière Élodie Kulik dans la Somme en 2002. Il est jugé en appel aux Assises du Nord. Il clame son innocence. Sa voix aurait été identifiée sur l'enregistrement d'un appel de la jeune femme au secours au moment des faits.
L'Euro sur RTL.
Les Français décollent ce matin pour Munich.
Dernier entraînement cet après-midi à 16h30 dans le stade du Bayern, avant le choc demain donc contre l'Allemagne. Les Bleus attendus de pied ferme outre-Rhin, reportage de Léo Potier.
Elles sont trois copines, Kaya, Marie, Valérie, trois copines attablées en terrasse, en face de l'écran qui commente le match à venir. Le prono pour mardi soir, c'est Valérie qui est la plus directe.
Je veux dire à chaque Français qui nous écoute que c'est l'Allemagne qui va gagner.
Kaya, elle, préfère passer par l'humour.
Je souhaite surtout que la Mannschaft ne termine pas dernière, plutôt la France.
Marie, la petite blonde aux yeux bleus, essaie d'arrondir les angles.
Franchement, si la France gagne, je peux le supporter. Mais bon, c'est l'Allemagne, mon équipe, on va bien voir comment elle va s'en sortir, que le meilleur gagne.
Et quand on lui parle des rumeurs qui présentent la Mannschaft comme une équipe fatiguée, pilotée par un entraîneur constamment suspens, Kaya relativise.
Les joueurs allemands, on vient de le voir à la télé, sont en forme, en bonne condition, et s'entendent bien entre eux. Et je crois que ça va le faire cette année.
Réponse donc d'Instak, ou plutôt, comme le disent les trois amis,
à mardi.
Ouais, mardi, ça rigole, on rira bien qui rira le dernier. Allemagne-France, coup d'envoi demain 21h, ce sera à suivre bien évidemment sur RT. Et puis un mot de tennis avec ce message publié cette nuit par Stefano Tsitsipas qui a perdu hier en finale contre Novak Djokovic à Roland-Garros. Il raconte sur Instagram avoir appris la mort de sa grand-mère quelques minutes avant d'entrer sur le court. La vie, ce n'est pas gagner ou perdre, il s'agit de profiter de chaque instant de la vie, seul ou avec d'autres. Philosophe le grec sur le réseau social qui a quand même, on le rappelle, bien dominé le Serbe hein, pendant les deux premiers sets.
Hein. L'histoire du jour.
Aux États-Unis, de la petite monnaie pour solde de tout compte. En Virginie, un homme a réglé les derniers 800 dollars de pension alimentaire à son ex-femme en pièces de 1 centime. 80 000 pièces déversées d'une remorque directement sur la pelouse de madame. On ne sait pas si elle a pris le temps de tout recompter. Mais elle a en tout cas décidé d'offrir la somme à une association de lutte contre les violences conjugales.
Et c'était le journal de Jérôme Flora.
Yves Calvi, RTL Matin.
Il est 8h13, les yeux de notre brigade se tournent ce matin vers Bruxelles et le siège de l'OTAN où se tient aujourd'hui un sommet de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il y a un an et demi, Emmanuel Macron disait de l'OTAN qu'elle était en état de mort cérébrale, provoquant d'ailleurs la colère de certains partenaires. Et aujourd'hui, ce sera donc le premier sommet de l'OTAN avec Joe Biden. Bonjour Brice Dugénie.
Bonjour.
Avec lui, les États-Unis sont donc de retour dans une relation apaisée avec les alliés.
Oui, après les quatre années tumultueuses où Donald Trump passait son temps à tenser ses partenaires de l'OTAN, il y a clairement un changement de ton américain puisque très rapidement, Joe Biden a rappelé l'importance de l'OTAN à ses yeux dans une stratégie globale américaine, notamment évidemment face à la Russie et la Chine.
La France et l'Europe doit-elle se réjouir de ce retour à la normale des relations avec les États-Unis ?
Alors officiellement, oui, hein, c'est toujours une bonne chose d'avoir des bonnes relations avec l'allié américain et sa surpuissance. Et puis les intérêts communs sont quand même très nombreux. Mais la présidence de Donald Trump a eu au moins un mérite, c'est de faire comprendre à certains Européens la nécessité d'être moins tributaire des Américains pour la défense. Oui. En fait, si vous voulez, le revers de la médaille de cette bonne relation retrouvée, c'est que le rôle de protecteur que jouent les États-Unis depuis des décennies n'encourage pas vraiment à l'indépendance militaire et stratégique européenne, même si les deux ne sont pas totalement incompatibles.
Alors Emmanuel Macron y a d'ailleurs fait référence la semaine dernière à quelques heures du sommet.
Oui, parce que selon le président français, l'Europe doit accroître sa maîtrise en termes d'armement et de défense, ne pas être juste un outil au service des Américains. C'est une manière de rappeler à Joe Biden que les Européens ont leurs propres intérêts, même si le président français n'est pas toujours très suivi sur cette ligne au sein de l'organisation.
L'arrivée de Joe Biden a donc fait un point aujourd'hui, fait apaiser les tensions au sein de l'OTAN. On pense notamment à celle entre la France et la Turquie.
Mais oui, puisqu'on sait qu'Emmanuel Macron souhaite une clarification des intentions de la Turquie. Vous savez qu'à multiplier les provocations à l'encontre des principes de l'OTAN ces derniers mois, la réunion d'aujourd'hui peut être l'occasion justement de régler ça. Et l'arbitre, eh bien, il s'appelle à nouveau Joe Biden. Mais le président américain va sûrement ménager ses deux partenaires dans un esprit de concorde, puisque dans deux jours, il rencontrera Vladimir Poutine et que Joe Biden doit se présenter avec une union très forte au sein de l'OTAN.
Merci beaucoup Brice Dugénie pour toutes ces précisions. Dans un instant, notre bureau de vérification de l'info avec Jean-Mathieu Pernin et Michel Simas va revenir lui sur l'accident de Christian Eriksen lors du match Danemark-Finlande. A tout de suite sur RTL.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
Il est 8h17, on regarde ce qui se passe du côté des fausses informations avec vous, Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, la vaccination des enfants contre le Covid provoque de nombreuses réactions, beaucoup sont fausses et très virales sur les réseaux sociaux.
Et oui, faites le test si vous rencontrez des amis, la vaccination est de moins en moins polémique. Par contre, l'idée de vacciner les enfants contre le Covid peut vraiment vous aider à faire de la place dans votre répertoire. C'est le nouvel angle d'attaque des anti-vaccins radicaux, les enfants. Ainsi, un visuel mensonger se répand sur Internet grâce aux réseaux sociaux. On y voit un jeune garçon masqué, vous regardant droit dans les yeux et ce slogan « C'est la première fois que l'on va vacciner des enfants pour une maladie qui n'est pas infantile, c'est de la folie ». Alors l'AFP a enquêté sur cette déclaration et elle est fausse, hein, puisque comme l'explique à l'agence de presse l'historien en vaccination Laurent-Henri Vigneault, parmi les 11 vaccins obligatoires chez l'enfant, on trouve par exemple le vaccin contre la rubéole, qui est une maladie bénigne, sauf pour les femmes enceintes, car il y a de danger pour le fœtus. Même chose pour les oreillons ou la varicelle, dont il existe bien sûr des formes sévères dans la population infantile, mais dont les formes sont les plus graves chez les adultes. Bref, vacciner les enfants, c'est aussi protéger les parents.
Alors pourquoi la vaccination des enfants provoque-t-elle toutes ces réticences?
Alors c'est un phénomène intéressant, car contrairement aux doutes sur les vaccins ARN et la crainte de son impact sur notre organisme, comme nous l'avons vécu en décembre ou janvier dernier, au moment où le doute envers la vaccination est en chute libre, ce n'est absolument pas le cas concernant les enfants. S'il y a bien sûr une branche importante de ces parents adeptes des théories complotistes, d'autres ne le sont pas du tout. Mais quand on évoque la vaccination de leurs enfants, eh bien, ils sont prêts à montrer les crocs. Les autorités sanitaires évoquent la vaccination des plus jeunes comme essentiel pour atteindre l'immunité collective. Mais certains en doutent, car les adolescents sont moins touchés. Donc pourquoi le faire? Le débat gronde dans les foyers.
Où sont les tests d'ailleurs concernant les vaccins pour les moins de 12 ans?
Alors dans un communiqué datant du 16 mars dernier, Moderna annonçait avoir débuté la phase 2 et 3 de l'étude KidCov, dans laquelle des enfants âgés de 6 mois à 12 ans allaient recevoir des injections. Au total, c'est 6750 enfants aux États-Unis et au Canada qui ont participé à cet essai clinique. La Chine d'ailleurs pourrait prochainement vacciner contre le Covid dès 3 ans. Donc la vaccination n'a pas fini d'animer les soirées d'été.
Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin.
RTL Matin. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simas.
Il est 8h19, bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Samedi, lors du match Danemark-Finlande, comptant pour l'Euro de football, le Danois Christian Eriksen s'est effondré sur le terrain, victime d'un malaise cardiaque. Des images impressionnantes, surtout quand on voit qu'il a été réanimé sur le terrain et qu'il est conscient au moment d'être évacué sur un brancard.
Oui, tout est impressionnant dans cette histoire. Oui. La perte de connaissance, bien sûr, aussi brutale qu'inattendue, voir un sportif de haut niveau s'écrouler comme ça alors qu'il ne courait même pas, ça rappelle des cas plus dramatiques de joueurs qui, eux, n'ont pas eu la chance d'être réanimé. Qu'est-ce qui s'est passé pour Eriksen? Impossible de le savoir quand on n'a pas vu son électrocardiogramme au moment du malaise ou celui que les équipes de secours ont enregistré. Le plus fréquent dans ce genre de cas, c'est un trouble du rythme cardiaque. Pour des raisons qu'il faudra rechercher, le cœur s'emballe, se met à battre de façon anarchique, c'est ce qu'on appelle une fibrillation. Et comme il bat trop vite, il n'a pas le temps de se remplir de sang, le cerveau n'est plus irrigué, c'est ce qui précède les arrêts cardiaques. Le traitement, c'est d'envoyer une décharge avec un défibrillateur défibrillateur pour que le cœur redémarre et batte régulièrement.
C'est ce que les équipes de secours ont fait ?
Bah, sans doute, mais comme tout était caché par un drap, difficile de le confirmer. En tout cas, c'est probable. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le joueur danois a été sauvé d'une part par la rapidité de la prise en charge et, si c'est le cas, par l'utilisation de ce défibrillateur. Deux points essentiels. Les arrêts cardiaques n'ont pas tous lieu sur un terrain de foot avec des équipes de secours. Nous devons, vous devez donc tous être des secouristes. Je l'ai dit de nombreuses fois dans cette chronique, formez-vous aux gestes de premier secours, car des Eriksen, il en meurt tous les jours en France, sur un terrain ou ailleurs, parce que personne ne sait quoi faire. Personne n'a osé faire un massage cardiaque de peur de mal faire. On ne fera jamais pire que la mort. Alors, il faut oser et alerter les secours.
Et puis, il y a ce fameux défibrillateur. Hein.
Oui, aujourd'hui, il y a des milliers de défibrillateurs dans notre pays, dans les transports publics, les mairies, les salles de concert, les stades, tout ce qui reçoit du public. Il n'y a pas plus simple que de se servir d'un défibrillateur semi-automatique. Il suffit de savoir lire. Tout est écrit, expliqué. Une fois que vous avez posé les patchs sur le thorax en suivant le dessin, l'appareil enregistre le cœur et vous dit s'il faut appuyer pour envoyer la décharge. C'est tout. Et pour savoir où il y a un défibrillateur, téléchargez l'application Staying Alive. Elle vous géolocalise et vous dit où vous trouverez l'appareil le plus proche. Pendant que quelqu'un va le chercher, vous, vous continuez le massage cardiaque parce que vous aurez vu que c'était un arrêt. Mais pour ça, il est plus simple de savoir comment faire le diagnostic. Et là, on en revient au secourisme. Mais pas de pouls, en le prenant sur le cou, c'est plus simple. Pas de mouvement respiratoire de la poitrine, ça peut suffire à faire le diagnostic. Quant au rythme selon lequel il faut masser, vous vous basez sur celui de Staying Alive, d'où le nom de l'appli. Boum, 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 voilà, vous avez le rythme en tête. Un petit rappel Yves quand même, parce que c'est aujourd'hui la journée mondiale des donneurs de sang. Allez-y, parce qu'avec le Covid et le télétravail, il y a pénurie. Je vous rappelle qu'avec un seul don de sang, on peut sauver 3 personnes. Et même si vous avez été vacciné contre le Covid, il n'y a aucune contre-indication à donner son sang.
Merci beaucoup Michel pour toutes ces informations et ce soutien au don du sang. Nous allons revenir sur cette pollution qui menace la Corse. Une nappe d'hydrocarbures dérive en Méditerranée. Elle s'approche du sud de l'île. Nous avons beaucoup de questions à poser à Christian Buchet qui dirige le centre de la mer à l'Institut catholique de Paris.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 8h26, bonjour Christian Buchet.
Bonjour à tous.
Vous êtes directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris, membre de l'Académie de Marine. La grande histoire vue de la mer, votre livre est paru aux éditions du Cherche Midi. Avec vous, nous allons revenir sur ce risque de pollution qui menace depuis plusieurs jours la Corse. Une gigantesque nappe d'hydrocarbures dérive autour de l'île de Beauté et prend désormais la direction du sud de l'île. Vous êtes inquiet compte tenu de la météo et des courants ?
Oui, ça peut revenir à terre, mais je dirais, je ne veux pas faire dichotomie entre la terre et la mer. Je dirais, comme si ça ne pouvait polluer que la terre. Mais la mer est polluée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quand vous avez une concentration d'hydrocarbures, notamment de plus de 50 microgrammes par litre, ça dénature la faune et la flore. Cette faune et la flore dont nous aurons besoin pour notre santé. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la terre qui est touchée, mais c'est la mer et la blessure est irréparable.
Alors, il ne s'agit pas d'un bateau ayant coulé, mais d'un dégazage. Qu'est-ce que précisément qu'une opération de dégazage ? Peut-on l'expliquer à ceux qui nous écoutent ?
C'est un peu compliqué parce que le véritable nom serait plutôt déballastage. Le dégazage consiste à retirer les gaz de cuves qui ont porté l'hydrocarbure, parce qu'autrement ça serait dangereux pour les nettoyer. Le déballastage consiste pour des questions de sécurité du navire, d'équilibre, à mettre parfois de l'eau de mer dans du pétrole et donc il faut laver ces cuves. Oui. Et ces cuves après, quand vous rejetez ça en mer, bien évidemment, ça provoque des émissions toxiques. Et puis vous avez
c'est une vidange, pour dire les choses simplement.
C'est une vidange, mais vous avez raison, c'est le mot exact, parce que vous avez également de l'huile de vidange. Et puis, ce carburant, ce fuel de lourd de fin de raffinage, on n'arrive pas, si vous voulez, à retirer tous les extraits, donc vous avez des caisses à bout. Donc, c'est tout un tas de produits, de détergents, de produits chimiques, d'hydrocarbures et d'huile de vidange qui se trouvent concentrés, qu'on n'a pas le droit de rejeter dans la mer, mais qui s'est pratiqué une fois de plus, malheureusement, avant-hier.
Je suis pas naïf, ces opérations, normalement, ça doit se faire dans un port.
Hein. Ah bah c'est obligatoire,
ça bien évidemment. Cher.
Oui, ça coûte cher, ça dépend des endroits, ça dépend surtout le temps d'immobilisation. Quand vous devez faire, je dirais, traverser tout un port pour aller aux endroits où vous allez le faire, vous immobilisez votre navire, ça peut coûter très cher. Et de ce point de vue, la France a pris des mesures très fortes il y a un certain nombre d'années, mais c'est pas le cas de tous nos partenaires européens.
Est-ce qu'on peut identifier un bateau qui fait son dégazage en mer? Est-ce qu'il existe des traces ou des indices permettant de pouvoir remonter jusqu'au bateau?
Bien sûr, l'idéal c'est le flagrant délit, hein, mais le flagrant délit suppose beaucoup plus de surveillance aérienne. Bien et sûr. Vu que le durcissement de notre réglementation a fait que c'était quelque chose qui était quasiment en passe de disparaître au large de nos côtes, oui. On va pas non plus multiplier les survols parce que ça provoque aussi des émissions de CO2. Oui, on peut. D'abord, on a tout navire depuis la réglementation Marpol, il y a registre des hydrocarbures, donc il suffit les navires suspectés d'aller dans les ports, ils vont arriver pour vérifier tout ça. On peut reconstituer, on fait des prélèvements et après on va comparer si la teneur, en quelque sorte l'ADN, correspond bien à ce qui a été relâché. Mais c'est compliqué, ça dépend dans quel type de port. Est-ce un port de l'UE? Est-ce beaucoup plus loin? Et puis très honnêtement, si le navire n'est pas français, ça sera compliqué.
Dans l'Union européenne, qui est censé faire la police des mers?
Écoutez, ce sont les États. Ce sont les États qui font la police des mers, même s'il y a des réglementations. La réglementation française est beaucoup plus dure. On doit ça à un certain nombre de nos politiques qui ont triplé il y a quelques années la réglementation, les sanctions que nous avons. Mais encore une fois, si on les plante en flagrant délit, si on peut prouver et si entre-temps la société n'a pas disparu, parce que ça arrive souvent. Vous savez, je vous donne un chiffre.
Oui.
En 2008, 1% simplement des infractions étaient sanctionnées. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Mais c'est dire que ce n'est pas aussi simple. Il faut pouvoir le prouver, il faut pouvoir poursuivre, ça prend du temps et parfois des sociétés écrans peuvent disparaître.
Dans le cas de cette nappe, est-ce qu'on peut intervenir pour limiter la pollution? Est-ce qu'on a des moyens d'agir?
Bien évidemment, le plan Paul Martin a été mis en place pour protéger le littoral. C'était une nappe au départ de 35 km, aujourd'hui elle se disperse un peu. D'abord on a retiré ces dernières heures plus de 4 tonnes si vous voulez déjà de ce mélange toxique en tout genre. Ouais. Donc bien sûr on fait un certain nombre de choses. Il y en a moins, pourquoi? Parce qu'une partie a coulé.
Bien sûr.
On n'y voit pas très clair parce qu'il est possible qu'une partie de ces boulettes soit sous l'eau et qu'en fonction des vents et des courants, elles arrivent sans crier gare pour être sous l'eau, sans qu'on les voie. Donc tout est possible. Mais ça reste quand même.
Ça dérive ou ça coule? Et pour, par ailleurs, pourquoi parle-t-on de boulettes par ailleurs, justement?
Ah, parce que c'est.
Parce qu'on a une, vous voyez, on imagine plutôt quelque chose de fluide et qui est en train de.
Ah non, pas du tout. C'est un fioul de fin de raffinage. Un fioul lourd, un fioul du type Erika ou Prestige. C'est-à-dire, c'est des boulettes. C'est des boulettes particulièrement grasses, particulièrement toxiques. C'est pour ça. Merci aux particuliers de ne pas y toucher parce que c'est vraiment toxique, tant pour les mains que pour les yeux que par l'inhalation. Vous avez une partie qui coule, une partie qui va s'émulsionner, une partie qui va être digérée. Mais la difficulté, c'est que ce fioul lourd se dissout bien moins en mer.
Que représente la part des hydrocarbures par rapport aux sources de pollution générale dans nos océans et dans nos mers?
Alors écoutez, j'ai eu l'occasion de calculer ça il y a quelques années avec mes étudiants. Les marées noires, en point médian sur 15 ans, c'est 150 000 tonnes par an. Le dégazage ou déballastage, c'est 1,8 million de tonnes. Et encore, je pousse pas parce qu'une commission d'enquête sénatoriale parlait de 2 millions de tonnes. Ce qui veut dire que ce qui émane vraiment de la mer comme pollution, c'est 2 millions de tonnes. 150 000 plus 1,8 sur une pollution de la mer que j'estime à 6 millions de tonnes. C'est-à-dire que, faut pas se tromper de sens, c'est pas la mer qui pollue la terre, mais c'est bien la terre qui pollue la mer pour 4 millions. Et c'est quoi? Ben, c'est tout ce que nous oublions, nos mégots, etc. Sur les plages françaises du golfe de Gascogne, entre 200 mètres profondeur et au large, vous avez plus de 50 millions de déchets individuels non biodégradables. Donc attention à tous les vacanciers de ne pas oublier un certain nombre de choses. Mais je profite de votre émission, Monsieur Calvi, pour montrer là où est vraiment l'ampleur de la pollution.
Allez-y.
C'est pas les continents de plastique. D'abord, il n'y en a pas un continent de plastique, il y en a 5. Oui. Vous en avez 2 dans l'océan Pacifique, 2 dans l'océan Atlantique, 1 dans l'océan Indien. Et si vous voulez donner le nom de RTL à un continent de plastique, financer une expédition en Méditerranée, dans toutes les mers, il y a des phénomènes de courant, de gyre, qui va ramasser toutes les petites particules. La menace majeure qui pèse, pas sur les océans, ils ont vécu à 362 degrés, mais sur nous humains, parce que la mer contient la quasi-totalité des solutions, c'est l'acidification des océans. Qu'est-ce que c'est? Les mers nous rendent un service fabuleux d'absorber à peu près 30% de nos émissions de CO2. Si elles ne faisaient pas ça, on aurait tous des masques depuis très longtemps, on aurait beaucoup plus de maladies, de défense immunitaire, etc. Mais depuis le temps qu'elles absorbent ces 30% d'émissions de CO2, elles s'acidifient, c'est-à-dire que le plancton, les coraux, bien sûr, ils blanchissent parce qu'il y a le réchauffement, mais il y a aussi l'acidification. On se souvient tous dans nos cours de physique que de l'acide sur le morceau de craie, ça le fait pas. Et c'est véritablement la menace. Quand vous savez qu'on ne connaît pas plus de 2% de la microbiologie marine, qu'on émane du milieu marin et que c'est dans la mer que nous allons trouver tout ce qu'il faut pour notre santé, que ça soit un scandale écologique, chacun le sait, mais c'est un non-sens économique pour le bien-être de l'humain.
L'acidification de nos mers est la vraie et grande question, je l'ai bien compris. La grande histoire vue de la mer, votre livre est paru aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup Christian Buchet d'avoir pris
bonne journée à vous
sur RTL. Dans un instant, notre météo avec Louis Baudin.
RTL Matin.
Louis Baudin, notre météo à 7 jours.
La chaleur encore pour ce début de semaine. Elle va même s'intensifier les deux prochains jours avec des températures qui atteindront, dépasseront les 30 degrés quasiment partout. On frôlera les 35 degrés parfois dans le sud ou encore dans le centre. Ça pour aujourd'hui. Pour la journée de demain également, c'est la même chose, hein, avec beaucoup de soleil. Un petit risque orageux seulement en montagne. Mercredi, ça continue, mais mercredi, en fin de journée, les premiers orages vont arriver par l'ouest, ça veut dire de l'air un peu plus frais. Hein. Quand l'air frais et l'air chaud se rencontrent, c'est là où on a l'instabilité, ça se passera dans l'ouest. Et puis au fil des heures, ça aura tendance à se propager peut-être dans la nuit de mercredi à jeudi vers l'Île-de-France, vers le nord, on va affiner ça au fil des jours. Et puis à partir de jeudi, là c'est une succession de passages orageux qui devraient affecter la plupart des régions. Peut-être un petit peu moins dans le nord-ouest et près de la Méditerranée qui resteront un peu plus à l'écart. Mais ailleurs, donc, il y aura des moments avec des éclaircies, des passages nuageux averses. Très nette baisse des températures à partir de jeudi. Et ce temps un peu plus instable, cette dégradation pourrait bien nous accompagner jusqu'à la fin de la semaine. Hein. C'est une dégradation durable qui a l'air de s'installer avec de l'air un peu moins chaud. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais avec probablement des averses assez fréquentes.
Les orages arrivent par l'ouest, mais pas avant mercredi. C'est ce que je retiens pour l'instant. Merci beaucoup, Louis Baudin.
RTL, vous êtes comme ça.
Et nous vous emmenons dans le Nord-Isère ce matin à la rencontre de Marion Rochat et de Marine Chapelin. Toutes les deux sont des trentenaires à la fibre écolo qui viennent de lancer il y a 6 mois leur petite entreprise de vente en vrac sans aucun déchet. Bonjour Frédéric Perruche.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous nous faites découvrir cette vente en vrac sur les marchés.
Bon bah c'est parti pour la direction de Sessuel pour le marché de cet après-midi. De 15h à 19h.
Quelques kilomètres de route à bord de ce sympathique camion baptisé Marcus, transformé, aménagé pendant des semaines pour permettre la vente en vrac sur les marchés du Nord-Isère que nous présente Marine.
Eh ben, on investit un peu moins de 30 000 euros pour le tout, donc l'achat du camion, le Renault Master, plus la transformation en camion magasin. Et ensuite, mon frère qui est charpentier donc nous a fait l'aménagement intérieur en bois.
30 000 euros quand même.
30 000 euros quand même.
Ouais, c'est un bel investissement.
C'est un bel investissement, mais c'est un beau Marcus.
Et on trouve de tout, quelques 150 produits alimentaires essentiellement, comme des lentilles bio, des pâtes, des gâteaux secs, mais aussi des produits d'hygiène ou d'entretien.
On a tout ce qui est épicerie sèche, riz, pâtes, légumineuses, fruits secs, graines, biscuits, farine, sucre, du café, on a du thé aussi en vrac, de la cosmétique, des accessoires zéro déchet, des produits d'entretien, des brosses en bois, des brosses à dents où on change uniquement la petite tête avec les poils. Il y a un peu de tout, oui.
Le respect de l'environnement est à la base de leur petite entreprise. Pas de sacs plastiques, circuits courts, produits bio ou équivalents. Concept zéro déchet.
L'idée avant tout pour nous du vrac, c'était justement de limiter le gaspillage alimentaire en achetant la juste quantité. Parce que si on a besoin de 200 grammes de lentilles, on n'est pas forcément du coup obligé d'acheter le conditionnement par 500 grammes. Et donc on consomme la totalité de ce qu'on a acheté. Et un point aussi qui est important pour nous, c'est le vrac, ça amène de la diversification alimentaire. Parce que du coup, on achète en plus petite quantité et on teste plus facilement d'autres types de produits. Étant donné qu'on peut les acheter sur un petit volume, et on peut se permettre de dire, tiens, je vais essayer aujourd'hui du millet décortiqué. Et ça permet de varier les plaisirs plus facilement quand on est sur un achat en vrac.
Et ça marche, les clients sont au rendez-vous?
Oui, des clients qui viennent avec leur bocal ou leur sac biodégradable. Les deux dynamiques jeunes femmes ont trouvé leur public, ravis d'acheter en vrac sur un marché des produits restants. Respectueux de l'environnement.
Je viens avec mes bocaux directement et comme ça je les fais remplir. On évite d'avoir des emballages pour rien. J'aime l'écologique, j'aime manger bio et naturel. Et ce qui est sympa dans les petits marchés comme ça, c'est qu'on va prendre ce qu'on a besoin et pas de trop. Et je trouve que je m'en tire pas plus cher que si je consommais non bio, parce que comme j'achète juste ce que j'ai besoin, et je trouve qu'on s'en sort mieux.
Les produits sont bons, c'est écologique, c'est pas plus cher qu'ailleurs. C'est un côté très pratique et on prend juste la dose dont on a besoin.
Marion et Marine ont quitté des CDI confortables dans l'alimentaire pour l'une et l'aéronautique pour l'autre pour se lancer il y a 6 mois dans cette aventure d'épicerie itinérante zéro déchet qui correspond à leurs valeurs écologiques.
En fait, ce qu'on est super content, c'est que les gens sont super contents de nous trouver sur le marché et contents de trouver cette offre, donc ça, c'est super encourageant. Et puis aller sur des marchés tous les jours, des marchés différents, c'est super quoi. Aller au contact des clients, c'est super plaisant.
Et mine de rien, on offre petit à petit à notre échelle en fonction de nos valeurs et de nos convictions. Donc ça, c'est une grande fierté aussi d'avoir un travail qui est en adéquation avec le mode de vie
qu'on prône, quoi. On pourrait se dire que c'est illusoire de le faire à notre petite échelle, mais nous, on raisonne un peu comme des petits colibris, hein. Beaucoup connaissent l'histoire, mais on fait un petit peu chaque jour, et on se dit que si chacun fait un petit peu chaque jour, bah, ça fera rapidement des grandes choses, quoi. C'est notre petite pierre à l'édifice, c'est que du bonheur. Ouais.
Et vous pouvez retrouver Marion, Marine et Marcus sur les marchés d'une dizaine de communes du Nord-Isère, 7 jours sur 7. Toutes les précisions sur leur compte Facebook, M. Le Vrac.
Merci beaucoup Frédéric Perruche pour cette rencontre avec Marion Rocha et Marine Chaplin, deux trentenaires à la fibre extrêmement écologiste. Et elles le prouvent.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h40. Ce matin, Agnès, vous avez décidé de nous parler de Jean-Claude, un enfant de la Creuse.
Une dénomination qui n'a strictement rien à voir avec son lieu de naissance, puisque l'homme qui fêtera cette année ses 70 ans est né à La Réunion. Il a déjà 16 ans lorsqu'il arrive à Guéret, et ce n'est pas pour une vie meilleure, loin de là. Pourtant, l'adolescent a son certificat d'études en poche. Il a travaillé comme apprenti coiffeur sur son île natale, puis comme tailleur de costumes. La vie semblait enfin sourire à celui qui n'a jamais connu ses parents biologiques. On lui a dit que c'était une chance de partir en métropole pour suivre de meilleures études. Il ne se doutait pas de ce qui l'attendait. Jean-Claude se retrouve dans un foyer rempli d'enfants réunionnais. Un mois plus tard, un paysan vient le chercher sans qu'il ait son mot à dire. Pendant sept ans, il va vivre dans des conditions pitoyables. Il ne fait que travailler. Je n'ai ni le temps de manger, ni de me reposer. Je suis traité comme un petit nègre, comme si j'étais en esclavage. Nous parlons d'enfants, nous parlons de la France et nous parlons surtout d'une époque pas si lointaine. Ce déracinement, plus de 2000 mineurs réunionnais en ont été victimes entre 1962 et 1984. Libération revient ce matin sur l'histoire de Jean-Claude, mais aussi celle de Valérie, Josian, Maryse ou encore Daisy. Tous des enfants de la Creuse. On les appelle comme ça parce que ce département a été celui qui a reçu le plus grand nombre de jeunes, mais en réalité, ces derniers ont été envoyés un peu partout en France. Une solution, selon le pouvoir, pour repeupler les zones rurales, alors que la Réunion, elle, à l'époque, connaît une explosion démographique. Quand ils sont choisis sur l'île pour un aller simple vers la métropole, ce n'est pas un hasard. Ils vivent souvent dans des foyers, des familles d'accueil. Leur enfance est déjà cabossée. Ils vont en plus être arrachés à leur environnement, parfois même de leurs frères et sœurs. À peine en pied sur le tarmac d'Orly, ils sont tous considérés comme orphelins et certains se voient même attribuer une nouvelle identité.
Autrement dit, on a délibérément volé l'enfance de ces Réunionnais.
Et pour faire reconnaître ce scandale d'État, cela prend du temps, beaucoup trop de temps. Entre 2016 et 2018, une commission d'information et de recherche a écumé les dossiers d'archives, écouté des dizaines d'histoires et au final établi une liste officielle de ces 2015 enfants, avec une petite victoire car celle-ci, cette liste, vient d'être versée aux archives nationales. Mais une fois l'histoire gravée dans le marbre, que fait-on de ces enfants déracinés ? Aux yeux de certains familiers de ce sujet si sensible, écrit notre consoeur Lola Breton, les autorités jouent la montre. Le temps passe, les exilés trépassent, et pourtant Jean-Claude attend beaucoup, il n'est pas le seul. Paris doit demander pardon, dit-il. Moi, je n'ai pas été battue ni violée, mais je crois que je le mérite. Je suis une victime de l'histoire.
Merci beaucoup Agnès Bonfillon. Il est 8h43, on va retrouver Laurent Gérard et toute son équipe dans un instant.
RTL Matin.
Bonjour, c'est Stéphane Boutsock.
Laissez-vous tenter.
Alors, c'est une histoire de famille et de cinéma que je vous propose ce matin. Sandrine Kiberlin et sa fille, Suzanne Lindon, seront à l'affiche mercredi de deux films différents. La mère joue dans Les Deux Alfred de Bruno Podalides et la fille a réalisé et interprète 16 printemps. L'occasion de confidences croisées, pleines de tendresse et de pudeur. Sandrine Kiberlin, Suzanne Lindon, c'est le générique de Laissez-vous tenter. Tout à l'heure, à 9h.
RTL Matin, 7h-9h30.
Avec Yves Calvi.
Il est 8h46. Bonjour Laurent Gérard.
Mais bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi et bonjour tout le monde. Je crois que la conférence de presse de Jean Castex est sur le point de commencer.
Test, test, test. République tchèque, one, two, check. Le micro fonctionne. Cette circonférence de fesses peut commencer en direct de mon canapé Queer Center. Car je suis cas contact, cas contact. Quelles sont vos questions ?
Bonjour Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Apathy, journaliste freelance. Ma question porte sur le Covid-19. Faut-il se préoccuper du variant Delta ?
Le variant Delta, zut, c'est lequel déjà ? Ah oui, je sais, j'ai un moyen mnémotechnique. Le variant
du Mékong est au Vietnam. Donc le variant Delta, c'est le variant vietnamien. Pardon de vous contredire, monsieur le Premier ministre, mais il n'y a pas de variant vietnamien. Le variant Delta, c'est l'ex-variant indien. Ah oui, ça me revient. J'ai confondu avec le Delta du Gange, qui est en Inde. Eh bien, je peux en dire, c'est que l'OMS nous casse les bonbons avec son alphabet grec. Son alphabet grec. Question suivante.
Bonjour, Marinette Farigoule pour Azure TV. Est-ce que bonjour, monsieur Calvi, ravi de vous voir.
Bonjour, Marinette.
Est-ce que le Tour de France d'Emmanuel Macron à la rencontre des Français prévoit une étape à Cassis?
Comme vous l'avez remarqué, Emmanuel Macron fait attention à sa ligne. Et vu qu'il a déjà pris une tarte à Thym, l'Ermitage, je ne sais pas s'il est raisonnable d'enchaîner avec une tarte au Cassis. Au Cassis, question suivante. Oui, bonjour Guillaume Durand pour Radio, comment dirais-je, classique. Alors, Roland-Garros, on a dû garder les masques. Résultat, comment dirais-je, j'ai un drôle de bronzage. Serait-il possible de rattraper ça cet été, comment dirais-je, à Saint-Tropez, quand je le ferai en définitive ma revue de presse à la terrasse de, comment dirais-je, Sénéquier, pour avoir un bronzage, comment dirais-je, totalement total et uniforme. Monsieur Duglan, non, ce ne sera pas possible, mais je vous rappelle que les centres de bronzage Point Soleil ont rouvert. À ce sujet, je vais maintenant laisser la parole à Olivier Véran pour un exposé de 2h30 sur les dangers du mélanome.
Après la gifle reçue la semaine dernière par Emmanuel Macron, toute la classe politique s'est montrée solidaire du président de la République. Parmi les soutiens les plus indignés, on a beaucoup remarqué celui de François Hollande. Bonjour François Hollande.
Bonjour mademoiselle Djihad. Bonjour monsieur Capri.
Ah bah presque. Non mais passons. Revenons sur votre appui au président Macron. Vous ne nous aviez pas habitués à tant de sollicitudes pour votre successeur.
C'est vrai, je le reconnais. J'ai parfois eu des mots très rudes envers Emmanuel. Mais désormais, quelque chose de plus fort que la politique nous unit. L'atteinte à notre intégrité physique.
Ah, c'est à ce point ?
Oui, oui, je le redis, un président ne devrait pas subir ça. Vous ne pouvez pas comprendre car vous n'êtes pas passé par là.
Oui, mais vous non plus, François Hollande, vous n'êtes pas passé par là. Vous êtes juste fait enfariner en 2012, comme Jean-Luc Mélenchon, samedi dernier, et puis c'est tout.
Hein. Non, c'est pas tout. Mais non, c'est pas tout. Du jour où j'ai été élu président, ma vie est devenue un enfer. Moi aussi, j'ai reçu des baffes, mais aussi des remontrances, des brimades. Dès le premier soir de l'élection, une folle a voulu m'embrasser sur la bouche, à la Bastille, devant tout le monde. Vous vous rendez compte, vous vous souvenez ?
Oui, ça me dit quelque chose.
Après, j'ai dû dormir dans le canapé. On m'a jeté mon rasoir Philips dans la mare de l'Elysée. On m'a coupé mes cravates. On m'a enfermé dans la salle de bain de la Lanterne avec Claude Sérillon. Un cauchemar !
Oh non !
J'ai même été privé de dessert pendant 2 semaines. Et ça, aucun président avant moi ne l'avait enduré. Mais je le dis, ça.
Oui, mais de quoi nous parlez-vous, là, au juste, François Hollande ?
De ma vie avec Valérie Trier-Weiler, après mon élection. Une vie sacrifiée pour la République. Et quand elle criait sur moi, Valérie ne disait pas « Ah bah la Macronie, mais retourne voir ta Julie oh !»
Le prophétique est toujours très attendu. Michel Houellebecq a publié un texte sur le site de la revue britannique Unheard. Bonjour Michel Houellebecq.
Bonjour.
Ça va ?
J'ai jamais été aussi heureux. Oui. Ce matin, j'ai pris un bon petit déjeuner.
Mm-hmm. Ah, c'est bien ça. Café, croissant ?
Non, Valium et cigarette.
Ah, oui. Revenons plutôt à votre texte pour cette revue britannique où vous réagissez à la fameuse tribune des généraux qui parle d'un suicide français.
Oui, je dis qu'ils ont tort.
Vous pensez que la France va bien ?
On n'assiste pas au suicide de la France, on assiste au suicide de tout l'Occident.
Oui, vous êtes encore plus pessimiste que.
Non, pas du tout. De toute façon, c'est pas grave puisque la planète saturée de 7 milliards d'humains va bientôt exploser.
Oui, d'accord. Oui. Mais alors vous qui annoncez avant tout le monde, vous n'avez pas une solution ?
Si.
Oui ? Ah ben, on vous écoute.
Ben, me recoucher et attendre.
Oui, la faim, j'imagine ?
Non, mon prochain petit déjeuner que j'ai commandé à la pharmacie.
Ah, très bien. Francis Lalanne, à nouveau au cœur d'une polémique, Monsieur Calvi. Oui. Le chanteur interrogé sur le comportement de Jean-Marie Bigard lorsque celui-ci a fait un parallèle douteux entre le passé vaccinal et l'étoile juive. Il s'en est pris physiquement à des journalistes de Quotidien. La justice a évidemment été saisie.
Allez tous vous faire enculer là.
Bonjour aussi Jean-Marie Bigard.
Oui, bonjour.
C'est des chochottes, les gars donneurs de leçons de Quotidien. Mm. Tu les effleures dans le petit costard Zadig et Voltaire. Ils s'effondrent les gars qui se prennent pour des reporters de guerre en te filmant à l'iPhone, bravo hein.
Alors vous êtes embêté que Francis Lalanne ait perdu ses nerfs lorsqu'il s'est agi de justifier vos propos complotistes?
Moi je dis, moi je le dis hein,
oui.
Un gars qui a un catogan, il peut pas être agressif le gars. Tiens, puisque je te parle de queue de cheval, ça me rappelle l'histoire du jockey qui a une envie de chier.
Ah non,
il est jockey.
Non,
et c'est pas
plaît.
La course hippique, c'est la course non. à la porcelaine, il a envie de
chier. C'est bon, c'est pas le sujet.
Ah ben, alors attends, je te l'ai amené mon Francis, tu vas voir comme il est pacifique. Vas-y Francis, hein, dis ce que t'as à dire aux journalistes qui défendent le vaccin qui file la 5G.
Oh mon Dieu.
Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous sépare.
Non, pas ça.
Bah t'as vu comme il est doux mon Francis depuis qu'il a été dans une maison avec des gars qui étaient habillés tout en blanc. Hein, c'était comment ta maison de repos Francis?
C'était la maison du bonheur.
Ouais, ça a l'air d'aller mieux. Hein.
Tiens, ça m'appelle l'histoire du zinzin qui a un entonnoir sur la tête. Alors il a eu une envie de chier, mais
non. Alors,
il prend l'entonnoir, il se le fout.
Oui, merci Jean-Marie. Écoutez, bonne journée.
Bah,
là,
j'ai plus qu'un bon. Truc à dire. Allez tous vous faire enculer. Voilà.
En présence de Marinette Farigoul, on ne peut pas dire des choses pareilles.
Je n'entame pas, monsieur Calvi.
Je suis vraiment désolé, mademoiselle. Vraiment, sur chaque concert, c'est pas possible.
De oui. Paris.
Alors néanmoins, si d'aucuns souhaitent retrouver, bien entendu, cette rubrique, eh bien, ce sera sur le site rtl.fr. Et sinon, nous prenons rendez-vous dès demain matin avec toute l'équipe.
C'est gentil. Et qu'est-ce qu'on mange ce matin?
Ah ben, on va s'intéresser à la crème pâtissière avec monsieur Lignac. Oh. Voyez, il va nous faire un beau diplomate.
Ah, on en a besoin en ce moment.
Ah oui, c'est ça. Un bon fraisier, si vous préférez.
Voilà.
C'est la crème qui est diplomate et le fraisier qui inclut cette crème.
Attention Emmanuel, attention.
Bon, allez, à tout de suite.
À tout de suite.
Passez une bonne journée sur RTL. RTL, toujours avec vous. RTL Matin, Yves Calvi.
Cher Cyril Lignac, rebonjour. Christine, j'ai à Biarritz, elle aimerait bien une bonne recette simple pour faire une crème diplomate, évidemment, afin de faire un fraisier. Et comment utiliser la gélatine? Elle nous dit « je n'y arrive jamais ». Voilà.
Alors, déjà la crème diplomate, c'est une crème pâtissière qu'on fait refroidir et ensuite qu'on allège avec une crème fouettée, c'est-à-dire comme une chantilly,
d'accord,
vanillée, mais qu'on ne sucre pas. Donc, on utilise de la gélatine uniquement pour faire un fraisier, pour que la crème tienne. Mais on peut utiliser la crème diplomate, moi je l'utilise beaucoup, dans les tartes aux fraises. Et à ce moment-là, je ne mets pas de gélatine. Comme ça, j'ai une crème beaucoup plus onctueuse.
Oui.
Donc pour ça, j'ai besoin d'une crème pâtissière. 45 centilitres de lait, une gousse de vanille, je fais chauffer, je mets 4 jaunes d'œufs avec 90 g de sucre et 45 g de maïzena, que je mélange, je verse le lait chaud dessus, et je reverse dans la casserole et je cuis la crème pâtissière jusqu'à ce qu'elle, ben, finalement, épaississe.
Mmh.
Auparavant, j'ai pris 3 feuilles de gélatine que j'ai mis dans de l'eau froide pour la réhydrater. Et une fois qu'elle est bien réhydratée, c'est-à-dire très molle, je la prends, je la presse et je la dépose dans la crème pâtissière chaude. Et là, elle va fondre. Au début, on ne le sent pas. Et quand on va la mettre au frais après, elle va se bloquer. Et c'est ce qui va nous donner finalement cette crème qui a de la tenue. À côté, je vais monter 45 centilitres de crème liquide en chantilly.
Mmh.
Et je vais alléger ma crème quand elle sera froide. Et là, on a cette crème diplomate hyper onctueuse. Alors, on peut la mettre dans le fraisier.
Ouais.
On peut aussi faire une petite salade de fraises et déposer une grosse cuillère de crème diplomate juste dessus.
Mmh.
Et on a une coupe de fraises avec la crème. Ou on peut s'en servir aussi sur une tarte que l'on a cuit avec une petite crème d'amande. Et au dernier moment, je dépose la crème diplomate. Et par-dessus, je mélange les fraises et les framboises. Et ça me fait une belle tarte aux fruits.
Je ne vous ai pas interrompu parce que tout cela était tellement charmant et goûteux qu'on vous écoutait avec délectation. Merci infiniment, Cyril. Toutes vos astuces sont à retrouver sur notre application RTL.fr. Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'actualité avec Jérôme Florin.
Une fuite aurait été identifiée sur une centrale nucléaire en Chine, dans le sud du pays, centrale opérée en partie par la France. Les États-Unis ouvrent une enquête. Vous êtes à Pékin pour RTL, Stéphane Pambrun. Que sait-on de cette centrale ?
La centrale de Taishan alimente en électricité une zone équivalente à la Grande-Bretagne, mais deux fois plus peuplée. Nous sommes à 120 km seulement de Hong Kong. Le site s'étend sur plus de 400 hectares, soit l'équivalent de 500 terrains de football. Cette centrale EPR de toute dernière génération a été inaugurée en 2019 et c'est un symbole important d'une coopération de 30 ans entre la France et la Chine dans le domaine du nucléaire. Une cinquantaine d'ingénieurs EDF seraient en moyenne en permanence sur le site, mais l'essentiel du personnel est chinois. Pour l'instant, la menace d'une fuite radioactive n'a pas été confirmée ni par les autorités chinoises ni par la partie française, mais plusieurs médias étrangers assurent que l'opérateur Framatome aurait alerté l'autorité nucléaire américaine.
Stéphane Pambrun en Chine pour RTL. Israël tourne la page. Benjamin Netanyahou, son successeur, le nouveau Premier ministre Naftali Bennett, a obtenu le feu vert du Parlement à une voix près. Netanyahou aura passé au total 15 ans au pouvoir. Nouveau procès dans l'affaire Élodie Kulik, cette jeune banquière tuée en 2002 dans la Somme. Willy Bardon, condamné à 30 ans de prison en première instance, est jugé à partir d'aujourd'hui en appel. La fin du masque en extérieur, c'est pour le 1er juillet, dans le respect des gestes barrières. Confirmation sur RTL du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. La France est désormais sous les 5000 cas par jour. Et puis les Bleus quittent Clairefontaine dans une demi-heure maintenant. Ils s'envolent à Munich à la veille du premier choc de cet Euro Allemagne-France. Coup d'envoi demain à 21h. À suivre évidemment sur RTL.
À suivre sur RTL, bien entendu.